Cette édition du podcast Geekbécois Extra est rendue possible grâce à la participation de Future Shop.
Hello! Bonsoir tout le monde! Bienvenue à Geekbécois Extra. X3, ça va très bien. Alright. Bienvenue à Geekbécois Extra, le 10e épisode déjà, et je suis de retour. Je vais faire mon possible pour vous animer un super show. Essayer d'accoter Bruno qui a animé les deux derniers épisodes. Alors, voilà! Du plaisir. Patati, tabarouette. Allô?
Hey. Allô?
Hello.
Allô, est-ce que c'était le pire moment d'intro de Geekbécois Extra de ma vie?
C'était le plus awkward parce que t'avais de la misère à remplir ton temps, je pense.
C'est pas juste ça. Je pense que le son a joué comme en triple et en quadruple, fait que c'est merveilleux. Hey, la prochaine fois, je m'y prendrai l'avance pour setter mes affaires, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Et pas faire une pause de 45 minutes parce qu'il y a quelque chose qui bug.
Et voilà. C'est vrai. Moi, je parle de tes bons moments, mais j'avais déjà oublié ce petit moment-là. Ce petit 45 minutes-là.
Ce petit 45 minutes que les auditeurs n'auront probablement pas entendu, mais disons que si le petit Jésus m'écouterait, ben j'irais en enfer. Ça sonnait pas très bien.
Bon, ben, puisque on t'a déjà tous entendu, mesdames et messieurs, Bruno Pierre Campo est avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour. Et l'inimitable et le très silencieux Jonathan Lemond est aussi là.
Hello.
Hello. Alors, ça complète mon équipe pour la journée et c'était aussi la fin de mon show. Alors, ben, merci à tout le monde d'avoir été là. Ça serait écœurant. Au moins, j'aurais été tête tout le long. Alors, ben, c'est ça. On est nous trois ce soir. On va avoir un petit peu de visite tout à l'heure. Et puis, ben, voilà. Moi, je voulais juste, recommencer mes louanges envers Bruno Pierre qui a très bien couvert mon derrière pendant les deux derniers épisodes.
Et, pendant que toi, tu nettoyais un derrière.
Entre autres choses, pendant que tout bonnement, comme ça, j'assistais à la naissance de mon fils. Alors, ben voilà, c'est ça.
Mais bravo. Merci.
C'est ça, là. C'était bien cool, puis toute la quête.
C'est toi qui as fait le gros du travail.
Oui, c'est ça. Je suis content qu'enfin, il y ait quelqu'un qui reconnaisse ma part là-dedans, parce que c'est pas...
Ben ça, il va se faire battre par Lynn.
Non, mais... Elle n'est pas là. Je l'ai envoyée dans un garde-robe. Question que j'aille la paix pendant le show. OK. J'ai juste regardé voir si elle n'était vraiment pas à côté de moi. Des que...
OK, bon.
Voilà. Fait que, ben bonjour les gars. Aujourd'hui, 14 mars, hein, la journée de Pi. Alors, bonjour, 3-14.
C'est ça. Il y a une autre fête, mais elle est un petit peu plus obscène. Je ne sais pas si ça vaudrait la... peine qu'on la mentionne.
À ce temps que t'as commencé, faut que tu finisses.
Oh là là, c'est moi qui vais passer pour le gros pervers de l'histoire. C'est aussi le Steak and Blow Job Day. Je sais pas si... C'est vraiment... Ouais, non, c'est ça. Je passe pour le pervers parce que je suis le seul qui est au courant de ça. C'est le Steak and Blow Job Day. C'est un autre méta fight. En plus de celle de Pi, pour ceux qui sont pas avec un penchant geek, qui aimeraient mieux manger des steaks et se faire reluire la poutre. Donc, voilà.
Se faire reluire la poutre? Dude, j'aime ça, mais je sais pas de quoi tu parles de toute façon, parce que moi, avec mon passé d'église, c'est pas vraiment des expressions que je pourrais comprendre.
Est-ce que t'es marié?
Non. Non.
Comment
mais
ça, t'as deux enfants?
C'est l'Esprit Saint, c'est ça que Lynn
avait
dit.
Ouais, non, ben c'est ça.
C'est ça que Lynn a... Oh, faudrait répondre au téléphone. Allô? Ah! Super le fun. Alors, ben c'est ça. Alors, aujourd'hui, voilà, en tout début d'émission comme ça, je vais vous juste vous souligner qu'on a un petit minimum, un petit mini changement à la formule de Geekbécois Extra. Le plus gros des deux, c'est que à partir du mois de... Avril, allô?
Allô?
Allô? Bon, à partir du mois d'avril, on va faire maintenant un épisode par mois de Geekbécois Extra. Fufu!
Oh!
Ouais! Mais... Pourquoi? Ben parce que c'est pour que en chaque épisode, il y ait plus d'attente et plus de désir de nous entendre à nouveau. soit ça ou parce que c'est bien de la job à monter le mensuel, puis en coupant un extra par mois, on va peut-être plus rentrer dans nos temps, puisque vous aurez remarqué que celui qui est responsable du montage n'est pas toujours fiable ces temps-ci. Alors,
pas de quoi tu parles.
Ben moi, je sais. Puis, ben c'est ça. En tout cas, en fait, c'est vraiment ça. C'est pour mettre un horaire plus stable des podcasts. Donc, on va rester à deux podcasts par mois, c'est-à-dire un mensuel enregistré. Et puis, celui-là en direct, Geekbeko Extra, qui va être à la deuxième semaine de chaque mois. Donc, voilà. Et puis, d'ailleurs, on a enregistré samedi qui vient de passer. On a reçu beaucoup de monde de Geekbeko chez nous. Et on a enregistré l'épisode numéro 7 du podcast mensuel. Et laissez-moi vous dire que lorsque ça sortira, ce sera extrêmement amusant. Fait que voilà. Et le deuxième changement, c'est que on a une formule un petit peu plus de discussion. C'est un peu ça qu'on faisait déjà, là. Mais je vais au début de l'émission, je vais présenter des sujets qu'on va aborder au courant de l'épisode. Puis, on va juste discuter des sujets entre nous et avec vous aussi. Fait qu'on va avoir besoin de la participation de tout le monde pour rendre ça très intéressant. Pas qu'on n'est pas intéressant par nous-mêmes, là, mais c'est le fun d'avoir du feedback autre que celui qu'on connaît déjà, là. Donc, voilà. C'est ce qui se passe pour Geekbeko Extra. Ça, puis des cheerleaders dans mon salon à partir du prochain épisode. Et,
est-ce que Lynn approuve?
Oui, c'est son idée à elle.
Parlez-y
en pas, mais c'est son idée à elle.
Uh-huh.
Alors, c'est ça. Fait que 10e épisode, hey, hein? On recule loin quand on check ça. Là. Ça fait déjà 10 fois qu'on se plug de même pour parler intelligemment de choses intelligentes. Et c'est ça. Fait qu'on s'en souhaite 1000 autres. Fait que ça va faire 1010 épisodes.
Ouais.
C'est peut-être juste que rendu au millième, on risque d'être un peu plus sénile, mais bon.
Ben, au millième, on va être comme ici Radio-Canada, ici le podcast Geekbeko Extra. T'sais, on va s'avoir fait acheter par quelqu'un, je veux dire. On est à notre 10e, imagine, mais qu'on soit rendu à notre 100e. Là. Les codes québécois vont être à nos genoux, ils vont faire « S'il vous plaît, arrêtez de détruire nos codes d'écoute. Vous êtes trop bons, les gars. » Puis là, nous autres, on va faire « Nah. »
J'aime ça, man. Pour vrai, j'aime ta vision. Sérieusement, je t'engage pour le PR, puis je te garoche partout.
Je suis vraiment pas bon sur le PR. Plus Jonathan, je pense que Jonathan, il est mieux placé pour le PR. C'est tellement une brute de PR, Jonathan.
Puis il est beau. Je suis PR, moi.
T'es tellement PR. C'est tellement PR. C'est me semble que ton deuxième prénom, c'est Pierre Rodrigue. C'est pour ça que t'es PR.
Ouais, Jonathan PR le monde. Yes.
Maintenant qu'on s'est présenté nous-mêmes, avant de commencer chaud, je veux dire allô à ceux qui nous occupent. Oh, ceux qui nous occupent.
Kiu-kiu.
Fait que c'est ça fait un mois que j'ai pas fait de podcast. Fait que là, je suis un peu
ça
rouillé.
Un petit peu. Ouais, veux-tu que je te remplace?
Hey, man, fais pas ça, je vais m'en aller pour vrai. Non,
non.
Alors, allô sur Twitter aux gens qui nous écoutent. Utilisez le hashtag Geekbeko pour parler avec nous durant l'émission. Soit participer au sujet ou bien saluer votre tante parce que c'est sa fête ou de quoi de même. Et puis, sur le chat de Ustream, en ce moment, il y a... Joël Martel de Fun Jouer Jeu. Ah non, ce n'est pas Joël. C'est Dan Vaillancourt, qu'on connaît de plus en plus. Et puis, allô à Mme Tremblay aussi, de l'Épée Légendaire. Et Mélanie, qui vient de se joindre. Mélanie que Bruno, tu as reçu au dernier podcast. Mélanie Boutin-Chartier.
Elle est tellement gentille. Écoute, je peux absolument rien dire. C'est une soie, cette personne-là. Alors, bonjour Mélanie.
Mélanie,
si
la soie.
Si tu nous écoutes, écoute, si je serais pas marié, si je serais pas sur le bord de me marier, non, c'est pas vrai. Ma blonde va me tuer si elle écoute ça. Oh ouais, my God!
Ça ferait un bon show si ça arrivait live. En tout cas.
oui, la télé-réalité, là.
Pas de problème avec ça, voyons donc. Fait que c'est ça, bonjour tout le monde. On va y aller tout de suite avec les manchettes. Je sais pas si vous êtes préparés des manchettes, les gars, mais j'en ai juste une toute petite. Vas-y. En fait, c'est juste pour annoncer un freebie très intéressant. Microsoft, qui a sorti, je crois, la semaine dernière, pour les gamers PC, les amateurs de simulateurs de vol, on sait que Microsoft est quand même une quasi-référence, si vous voulez, dans les simulateurs de vol pour plateforme PC. Et bon, ceux qui ne veulent pas avoir le jeu entier parce que, mon Dieu, ça gruge des ressources. Les machines. Microsoft a sorti une version très abrégée de son simulateur de vol qui s'appelle tout simplement Microsoft Flight et c'est gratuit pour téléchargement. C'est un jeu à part entière, c'est un jeu free-to-play. Alors évidemment, dans le jeu, il y aura certaines options qui seront payantes si vous voulez les ajouter au jeu. Je l'ai téléchargé, ça run super bien sur ma machine qui est pas une machine de guerre, mais qui fournit amplement ce que le jeu demande. Et puis c'est le fun, évidemment il n'y a pas de gros vols de Boeing ou d'avions de ligne. Les avions qui sont suggérés, il y a un ultra léger, puis il y a un avion de combat de la Deuxième Guerre mondiale avec lequel c'est très le fun de faire des acrobaties. Mais pour un jeu gratuit qui pèse même pas 2 gigs à télécharger, je crois que c'est 1.4 gigs, je l'ai téléchargé en 8 semaines à peine. Fait que, non, c'est ça, c'est un jeu gratuit. Vous pouvez aller sur le site de Microsoft ou tout simplement en écrivant Microsoft Flight dans votre moteur de recherche préféré, c'est-à-dire Google, probablement. Ben, c'est ça, le jeu est téléchargeable. Puis, il y a aussi un mode en ligne, un mode multijoueur en ligne auquel je n'ai vraiment pas trouvé d'utilité là, parce qu'il n'y a pas vraiment de combat d'avion ou quoi que ce soit. Donc, c'est bonjour, on vole-tu main dans la main un avion à côté de l'autre? À part ça, il n'y a pas grand-chose. Mais il est quand même... Il est quand même disponible, ce mode-là. Et puis, c'est ça. Ça va vous prendre seulement un compte live, Microsoft Gaming Live, qui est un peu la copie PC de Xbox Live. Un compte que vous faites tout à fait gratuitement avec une adresse email de Microsoft, c'est-à-dire en soit fait, live.
Le Microsoft Gaming Live, oui. C'est exactement... Si tu as un compte avec Xbox Live qui est linké à travers... je dirais live, le système live en général. Si, mettons, vous avez déjà joué un jeu sur Steam qui demandait, Game for Microsoft, ou je me rappelle pas c'est quoi le nom du système, parce que ça synchronise tous vos trophées ensemble, donc c'est lié. Donc, si vous avez déjà un compte avec Microsoft de cette manière-là, vous avez juste besoin de vous plugger, puis ça se fait tout seul.
Ah, cool! Ah ben c'est bon à savoir. Ben en tout cas, moi, ça m'a pris 2 secondes. J'avais une adresse. En fait, j'ai une adresse Hotmail que j'utilise seulement pour les scraps, là, pour les spams, les junk, etc. Là, que je distribue très, très aisément sur Internet. Puis je l'ai utilisé pour me faire un compte. Puis c'est ça. Ça m'a permis d'aller jouer en ligne. Et puis avec votre compte live activé, ben, vous avez un téléchargement d'un avion supplémentaire. Que vous pouvez avoir dans votre bibliothèque d'avions. C'est pas à travers le monde. Hein? C'est un jeu gratuit, donc c'est-à-dire la map de jeu, c'est pas la planète entière. C'est l'archipel des îles d'Hawaï. Donc,
moi qui voulais faire World Trade Center 2, le retour à Montréal.
Je sais pas combien de monde qui ont décidé de faire ça quand c'est arrivé par la suite.
Hey! Ah, je sais pas, c'est comme on boot flight puis on essaye de copier exactement les... Non, sais-tu quoi? Après mon 45 minutes de sacré après Ustream Producer, ça c'est, je pense, le deuxième événement qui va m'envoyer en enfer. C'est garanti. Mon Dieu, je pars en enfer là, je prends mes valises puis je pense que le Yob là, il va me regarder, il va faire « Hey, toi tu t'es pogné un abonnement là.
Ben, tu nous écriras Bruno, ça va être le fun. Pogne-toi une connexion, mec, tu sois là, pogne-toi une connexion.
15 bon. Mars 2012, fait chaud.
Il fait chaud?
Bref, hein? Ouais, bon. Fait chaud.
D'accord, on est le 14?
Ouais, mais c'est en prévision de, si je meurs demain, qu'est-ce qui va se passer?
Ah ben voilà.
Mais bref, trêve de plaisanterie.
Ça, parce qu'on a besoin de toi. Fait que ben c'est ça. En fait, c'était ça ma manchette. Fait que si vous voulez essayer un jeu quand même le fun, c'est compatible avec la plupart des contrôleurs de jeu aussi, soit un joystick de pilotage d'avion ou un manche à balai. Ou moi je joue avec ma manette Xbox avec fil que j'ai branché à mon PC. Ça va super bien. Alors bon. Ben voilà. Microsoft Flight, essayez ça, vous m'en donnerez des nouvelles, puis ajoutez-moi pas parce que je vois pas jouer en multijoueur. Oh, bon. Alors voilà, c'était pour moi. Maintenant, Jonathan peut-être, bonjour.
Hello.
Hello. Est-ce que t'as quelque chose à nous jaser?
Ben, deux petites nouvelles pour les amateurs de télé. Aujourd'hui, ben, deux, trois, quatre, là, dans le fond. Premièrement, pour la plus populaire, il y a South Park qui recommence aujourd'hui.
Fait que ça, yay!
C'est ça que je pensais. Pour ceux qui sont un petit peu plus underground, il y a Ugly Americans aussi qui revient aujourd'hui.
Yay!
Tu vois, on a 50% moins liés. En gros, j'invite tout le monde à écouter cette émission-là parce que c'est complètement ridicule, à quel point c'est drôle.
C'est quoi l'émission? J'ai pas compris, excuse-moi.
Ugly Americans. En gros, c'est très simple. C'est que les créateurs ont fait « OK, et si tous les monstres mythiques existeraient pour vrai? » OK. Donc, il faudrait qu'ils soient intégrés dans la société. Oui. Donc, ça suit l'histoire de Mark Lilly, qui est un travailleur social qui aide les monstres et les démons à essayer de s'intégrer à la société de New York. C'est très, très drôle. Alors, bref. Moi, j'adore ça. Puis, l'humour, c'est un humour assez sarcastique. Tu sais, exemple, ils donnent un bon punch dans la direction de Twilight avec les sparkles et tout, là. Donc, ça, j'ai trouvé ça très drôle.
Ah, OK. Je pourrais peut-être m'y intéresser soudainement.
Ouais, non, mais.
Twilight, c'est insta-win pour moi. Là.
Ouais, c'est ça.
Ah, mais gars, ils n'ont pas de limite, là. C'est Harry Potter. Puis à un moment donné, le coloc de Mark, c'est un zombie. Puis son pénis, il se sauve parce qu'il fait des traitements pas très légal pour la société des pénis. Donc, il se sauve. Puis t'as son coloc qui cherche son pénis pendant tout l'épisode. Bref.
Attends, puis. Je suis en train de me commander les DVD sur Amazon.
Non, mais c'est sérieusement très bon. Puis, la dernière nouvelle, c'est ce dimanche que la finale de Walking Dead arrive. Donc, on va avoir encore un congé de 3, 4, 6, 18 mois avant la prochaine saison.
C'est-tu là que je me fais traiter de vraiment merdique si j'ai jamais écouté ni lu un livre ni écouté un épisode de cette série-là?
Je te conseille fortement la BD. Mais okay. En tout cas, la série, je trouve qu'elle diverge un peu trop de la BD. Là. Okay. Ceux qui montent sur Facebook ont probablement vu que je cassais des tables en deux juste en criant parce que je trouvais que ça faisait pas de sens comment les épisodes finissaient. Là.
OK.
Fait que, bon, c'est ça. Mais bon, la BD est bonne.
D'accord. Mais je dois checker ça. Écoute, il y a le trois quarts du monde qui m'entoure qui écoute Walking Dead. Voilà. Puis ils me disent, t'écoutes pas ça. Puis là, je les entends parler de ça pendant juste à ma job. Ça parle de ça à quasiment toutes les breaks. Ah, t'as-tu vu ça? Blablabla. Fait que c'est un peu comme si. Oui?
Non, mais je te laisse finir.
Ah, ben j'allais dire, c'est un peu comme si j'étais déjà inclus dans les fans de la série, même si je l'ai pas écouté encore. Là.
Ben, c'est comme moi qui. À chaque fois que je rencontre mon cercle d'amis, il y a juste une personne. Je vais le nommer Steve pour le bienfait de la cause. Fait que notre Steve à nous autres, ce qui arrive, c'est que lui, il a jamais lu Games of Thrones. C'est okay. Même pas le premier livre. Puis il veut les lire. Fait que c'est tout le temps une question de « Oh man, ça me fait penser au bout de... » Spoilers. 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 Après spoilers. Là, c'est pas pire, il a commencé à lire tranquillement Games of Thrones. Fait que On peut commencer des conversations. Tu sais, je veux dire, c'est comment être excité à propos de quelque chose quand la personne, tu veux pas être tout aussi spoilé? Ben.
Ouais.
Parlant de Game of Thrones, 4 ou 14 avril, ça recommence.
C'est pas le premier?
Je sais pas. Je me rappelle plus exactement la date, mais je sais que ça s'en vient et que j'ai hâte en maudit.
Ben oui. Ah, puis la rumeur veut qu'ils ont comme brûlé 80% de leur budget dans la bataille de Blackwater. Pour ceux qui ont écouté le livre, je dis Blackwater, bataille épique, 80% du budget d'une série d'HBO. Oui, vous pouvez commencer à être excité, les amis.
Ouais, donc c'est ça, je voulais juste m'occuper du petit côté télé, étant donné qu'Alexandre n'était pas là.
Oui, c'est vrai, mais...
J'étais en manchette.
Ça t'aurait pris... Non, je veux pas recommencer là-dessus, parce que, comme je dis, samedi, on a enregistré le podcast chez nous, puis je pense que... On l'a chalé à peu près 30 fois avec un accent français. Là. Fait que je m'en ai dit, ça t'a repris un petit accent français pour bien remplacer Alexandra, mais.
D'accord. Bonjour. Baguette. Bon, c'est fait. Alex va me tuer, mais c'est pas grave.
Sûrement, mais écoute. On l'aime.
Elle est tellement violente, là, je pense. Elle a tué mon clone. Elle a tué mon clone là, parce que j'ai envoyé mon clone aller m'excuser puis il est revenu en morceaux. Fait que...
Ah, super le fun.
Tu sais, quand Bruno dit n'importe quoi, là,
Non, mais gars, je patauge des fois dans n'importe quoi quand je me mets à parler. Fait que c'est pour ça que maintenant, je vais t'écouter parler de ta manchette à toi.
Ben, manchette, moi, quelle surprise, je vais parler de jeux vidéo. Alors, ça a quand même été un gros deux semaines. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Mais je ferai pas la liste de toutes les manchettes parce que il y en a beaucoup. Il y a eu le Game Developer Conference qui s'est passé à San Francisco, si je ne m'abuse. Et il y a quand même du stock qui a sorti, quand même des affaires intéressantes. Il y a eu SimCity que j'ai annoncé sur le blog.
Mm-hmm.
Durant un événement louche de Electronic Arts.
Quand même. Excusez-moi, ouais. Mon Dieu, je fais mourir.
Mais il y a aussi Sega qui a durant l'annonce de Jet Set Radio Future HD, qu'ils ont officiellement annoncé au Game Developer Conference 2012, ils ont aussi laissé un teaser qu'ils feraient peut-être un remake et HD de Shenmue. S'il y a des fans de Shenmue dans l'audience, oui, vous pouvez commencer à vous énerver.
Moi, je le trouvais beau, ce jeu-là. J'ai pas joué, là, mais je le trouvais très, très, très beau.
C'est ça. Et d'autres personnes qui ont aimé le RPG Skies of Arcadia, il va y avoir un remake, parce qu'il y a eu un remake au GameCube il y a un bout de temps, que les graphiques ont été un petit peu améliorés, rien de spécial. Mais là, ils vont faire une version HD du jeu. Ça va sortir quand? On ne sait pas. Mais ils sont pas mal pognés sur... les compagnies de ces temps-ci sont pas mal pognées sur les HD remakes.
C'est fou, hein?
C'est moi, ça me gosse un peu parce que ça empêche la créativité. Puis là, je pense que Joe pourrait m'ostiner à fond la caisse là-dessus.
Oui, mais bon je vais te laisser étaler tes arguments.
Oh, shit.
Ben, moi, ce que je veux simplement dire, c'est qu'en ce moment, ce que je trouve que l'industrie souffre, et c'est mon opinion là-dessus, puis c'est le fait que on n'a pas assez de nouvelles franchises intéressantes sur le marché qui sortent. Pas nécessairement la quantité, mais tu sais, je veux dire, on est rendu à Call of Duty 3, Battlefield 3, Mario Party 9. Tu sais, si vous remarquez, là, c'est toutes des sequels, de sequels, de sequels, de sequels. Il n'y a rien de nouveau qui sort. Puis, je veux dire, c'est bien parce que ça veut dire que les franchises pognent. C'est mal parce que ça empêche les idées originales. Tu sais, des affaires comme Psychonauts. Tu sais, des affaires vraiment intéressantes. Que c'est des explorations du jeu, des fois ça réinvente un genre. On n'en voit plus, là. Je veux dire, c'est rendu pas mal du more of the same. Puis je veux dire, les HD Remake, ça aide pas cette vague-là, parce que tout ce que ça fait, c'est hey, je vais faire un HD Remake d'un jeu que tout le monde veut, une suite, mais je vais juste faire un HD Remake, ça va les calmer, puis je vais me faire de l'argent sur le site. Moi, ça me gosse un peu.
Mais au moins, ils ramènent pas. Quasiment, pratiquement jamais des scraps. Là, c'est des gros titres populaires qui ont eu du succès qui reviennent. Fait que c'est quand même popé.
Ouais, là. Mais c'est habituellement des jeux qu'on demande la suite, comme Shenmue. On demandait un Shenmue 3 depuis je sais pas quand. Puis, tu sais, je veux dire, on a eu Shenmue 2. Skies of Arcadia, on veut une suite de ça. Sort un HD remake. Jet Set Radio Future, on veut une version. Oui, on a une version HD, mais tu sais, tu regardes le jeu à la base, c'est le même jeu.
Ouais.
Je pourrais m'étendre toute la soirée sur ça. Mais en même temps, c'est une bonne chose. Parce que, ben là, je vais laisser Joe. Parce qu'on s'en est parlé avant le show. Fait que je vais laisser Joe faire son argumentaire. C'est une bonne chose, mais en même temps, je trouve que... Je trouve, en ce moment, c'est comme ils ont tapé dans une mine d'or, puis ils vont faire. Ils vont puller un Activision, tirer le lait de la vache jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, puis qu'on soit écœuré des titres rétro, puis après ça, on va retourner sur une mode. Mais combien de temps ça va te faire? 10 ans? 15 ans? Avant qu'on ait des titres originaux? Je sais pas. Tu sais, gars. Je mentionne pas Nintendo, mais Nintendo qui est.
Je mentionne pas Nintendo, mais Nintendo.
Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que Nintendo aussi sont pognés dans ce mode de « Hey, on va pousser sur le rétro à fond la caisse. » Là, je veux dire, Super Mario 3D, excellent Mario. Et qu'il y avait de la nostalgie à pelleter dans ce jeu-là, c'est ridicule. Bref.
Mais tu sais, en même temps, c'est pas tout le monde qui a gardé leur vieille console puis qui ont tu sais, qui vont faire « Ah, ben, Colin, je m'ennuie de jouer à ce jeu-là. Je pense que j'irai louer le jeu. Ah, fuck, j'ai plus la console. Je vais louer la console. » Tu sais, ça commence à être du trouble si c'est un remix comme ça, un remake, c'est-à-dire qui sort en version haute définition d'un jeu que ça tente de jouer. C'est sûr que ça atteint peut-être pas tout le monde. Ça attire peut-être pas tout le monde, mais il y a quand même une fanbase, justement, nostalgique qui peut peut-être s'y intéresser. Mais toi, t'en penses quoi, Jonathan?
Ben, moi, je pense que c'est juste une bonne chose parce que, premièrement, justement, nous, on est vieux. Quand on va mettre ça sur la table, premièrement, on est vraiment vieux.
Ouais, fait vous êtes vraiment vieux.
25 ans, vraiment vieux.
Voilà. Ouais, mais c'est mieux pour des gamers parce que, je veux dire, on a commencé avec le gaming, puis là, on est rendu avec une nouvelle génération. Tu sais, quand je faisais mes stages, j'allais dans les classes de 6e année, puis ça parlait tout de Call of Duty, là. Ouais. Il y avait même des filles avec des t-shirts de Yoshi, ils savaient pas c'était qui Yoshi. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, il y a une nouvelle génération à éduquer, là, on n'a pas le choix. Je veux dire, Call of Duty puis Halo, c'est pas vraiment des bonnes bases de gaming. Fait que, le fait qu'ils ressortent des jeux en HD, ben, ça donne une chance à ceux qui n'ont pas vu les franchises les voir. Puis ça, ben, la majorité du temps, c'est juste accessible en, justement, en remake HD qui sont disponibles sur le net parce que, il n'y a pas de moyen de les jouer sur les consoles de base. T'sais, si je regarde, premièrement, vous savez que j'ai une Vita. J'ai regardé juste pour le fun, puis j'en parle justement dans mon review. Hey, moi, j'ai bien aimé Persona. Ouais. J'aimerais savoir Persona 3, mais en portable. Ouais. Je vais aller voir au EB Games. Ouais, il y a une copie pour 5$. OK, cool. Je vais aller voir juste sur le PSN au cas où. Ouais, sur PSN, elle vaut 40$. Ah, OK, d'accord. Fait que, vous voyez, ça a des prix, puis ça, je trouve ça vraiment plate, parce que ça fait que quelque chose qui pourrait être vraiment positif pour des jeux qui étaient vraiment bons dans le temps, parce qu'on est vieux, ils n'ont pas la chance de se faire connaître, parce que justement, il y a des prix complètement malsains dessus. Là. Je veux dire, 40$ pour Persona 3, on s'entend, c'est un jeu de PS2, là. Ça vaut pas. C'est pas une question de qualité du jeu, mais je pense qu'un jeu vieux de genre 5 à 10 ans, ça vaut pas vraiment 40$. Là, peu importe ce que tu revamps dessus. Là.
Non, c'est ça.
Fait que bref. Mais non, c'est ça. Puis en même temps, je veux dire, je crois pas que ça empêche la créativité parce que justement, regardez Call of Duty, selon moi, le meilleur, c'était le 4. Puis j'ai boycotté tous les autres après parce que c'est de la pure merde. Mais vous voyez, ils ont pris le 4.
Les autres après auraient pu être des 4.1, 4.2. Là.
Ben, ouais, c'est non. Ça. Premièrement, pas les appeler des chiffres. Puis deuxièmement, écoute, ils ont sorti le 4. L'année d'après, ils sortaient World at War. L'année d'après, Modern Warfare 2. Puis ils ont sorti tout back Black à back. Puis ils n'ont pas changé d'engin. Ils n'ont pas changé. Ils ont optimisé quelques petits trucs, là. Mais ils n'ont rien fait, là. Fait que je pense qu'on n'est plus... On n'est plus dans l'ère des jeux de qualité, on est dans l'ère de pousser des jeux vite parce qu'on veut de l'argent, point.
C'est ça. Puis moi, ce que je trouve triste avec ça, c'est que c'est Activision le champion de ça. Parce que Activision sont mode, puis ils l'ont dit clairement. Nous, quand on crée des franchises, c'est qu'on est capable de. Et pardonnez-moi le terme, on est capable de chier un jeu par. Tu sais, c'est comme un peu Electronic Arts avec les NFL, les NHL. Ça, ouais. Je veux dire, ça a un fondement de vérité parce que c'est jamais la même game. Tu sais, je veux dire, les stats sont pas les mêmes. Il y a des affaires qui changent, il y a des nouveaux joueurs. Tu sais, ça, je peux comprendre, mais...
Il y a des nouveaux features dans les jeux aussi.
Ouais, il y a des nouveaux features, mais quand tu pognes Call of Duty puis tu t'en chies un, puis c'est devenu le NHL des shooters, puis je veux dire, en même temps, OK, c'est correct, mais en même temps, c'est jamais la même équipe qui travaille dessus. De deux, c'est jamais le même style de gameplay. De trois, pourquoi je paierais 70$ en plus de... Si je suis un vrai fan, je vais payer mon abonnement Call of Duty Elite à, je pense, c'est 8,99$ par mois pour avoir les map packs gratuits. Grosse guillemets, gratuits.
Mais c'est quasiment ça. En plus, les Call of Duty qui sortent, c'est pratiquement juste des nouveaux rosters d'armes, puis il y en a beaucoup qui reviennent, puis c'est des nouvelles maps. Parce que, mis à part ça, il n'y a pas vraiment grand-chose qui change. Là.
Les downloadable content, c'est ridicule.
Celui qui dit ça en ce moment, c'est un hyper fan de Call of Duty. Je reste fan, là, Mathieu.
Mais hey, en plus, là, les map packs qui ont sorti pour Modern Warfare 2, j'avais envie de flipper une table tellement c'était ridicule. C'est, on vous donne deux nouvelles maps et puis on prend une deux vieilles maps de Call of, de Modern Warfare 1 ouais. pour 15$. Ouais.
Puis il y a bien du monde qui les ont achetés parce que je me souviens d'avoir voulu joiner des games. Puis non, on a cette map-là, on a cette map-là, cette map-là. Il y a du monde qui sont encore plus hardcore que moi qui ont été payés pour ça. Là.
Ouais, c'est ridicule. Là.
Mais oui. c'est plate parce que justement, c'est là que tu vois que soit la clientèle A est pas trop trop vite ou bien B, c'est pas nécessairement du monde dans notre âge qui font comme excuse-moi, j'ai autre chose à faire avec 15$ que de payer pour deux maps. Là.
C'est ça. Mais là, si on vient au remake HD qui est un petit peu un autre volet. Non, mais c'est bon qu'on parle de ça parce que les remakes HD, ça me fait. Pour moi, c'est un peu comme ça. C'est comme les suites trop faciles ou c'est comme les compagnies qui sortent un jeu. Puis 5-6 mois après, ils sortent le même jeu, mais avec toutes les DLC pour à peu près le même prix. Tu sais, on pourrait partir là-dessus aussi, mais selon moi, les remakes HD, ça a ses bons côtés, mais ça a ses mauvais côtés aussi. Là, t'sais.
Là c'est surtout que c'est comme un peu dans le temps, ben, c'est comme la mode des TV 3D. Parce qu'on s'en allait avec la technologie des TV OLED. Puis là, tout d'un coup, tout le monde est viré fou sur le 3D, tout le monde voulait du 3D à cause d'Avatar. Ils ont sorti les TV 3D, puis le développement des OLED a arrêté. Fait que les TV du futur, ben, on commence à les recevoir 2-3 ans plus tard qu'on était supposé les avoir. Puis, tu sais, c'est à peu près le même principe. Là. Les IP, et IP qui veut dire Intellectual Property, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les IP originaux qui viennent de sortir. Il n'y en a presque plus. Là. Je veux dire, Deus Ex Human Revolution, c'est Deus Ex, mais... Lui, il compte pas parce qu'ils ont totalement retravaillé la manière qu'il a marché parce que le 2, il était mauvais puis le 1, il était merveilleux. Mais on tombera pas dans les détails. Mais tu sais, c'est tant que les gens vont acheter les HD Remake, ils vont continuer d'en faire.
Ouais. Ben, tu sais, ça s'ajoute bien dans une collection, par exemple. T'sais. Quelqu'un qui est vraiment fan de posséder des jeux puis dire hey, « ce jeu-là, j'ai vraiment trippé dessus, puis là, ben, je vais l'ajouter à ma collection parce que maintenant, je peux jouer avec des graphiques un peu améliorés, je peux jouer avec des contrôles plus fluides, je peux jouer avec de la musique qui sonne meilleure, qui sonne mieux. » Voyons, coudonc, j'étais à l'école anglaise, moi. Mais... Ah, j'ai pu jouer musique qui sonne de meilleur d'avant, toujours.
Mais ça serait le fun de poser la question à notre auditoire. C'est qu'est-ce qu'ils pensent des HD Remake? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour notre génération de gamers?
Ben, je l'ai fait tantôt sur Twitter.
Tu m'as clenché.
Et voilà. J'ai demandé, on parle de Remake HD, jeux vidéo sur Geekbécois Extra. Vous, en achetez-vous? Puis j'ai eu quelques réponses. Il y a Laurent. Laurent Chouinard, qu'on salue, qui est sexy comme deux étalons. Laurent qui a répondu Jet Set Radio en HD, même si c'est exactement le même jeu que sur la Dreamcast, ça serait très apprécié. Si c'est pas trop cher, évidemment, il y a le montant qui revient. Il n'y a pas grand monde qui irait payer 70-80$ pour un remake HD.
J'ai déjà de la misère à dépasser ça pour un jeu dit original.
Oui, ben c'est ça. Jean-François de Geekbécois aussi. Coudon, vous nous écoutez toutes, ma petite gang de coquins. Qui dit, ben pas trop, là, parce que c'était pas tout bon, tu sais. Fait que ça, c'est une belle phrase. Allô, Jean-François. J'ai Aubert Guimette qui répond, lui, je préfère les bonnes vieilles versions rétro. Si un remake propose de quoi de nouveau, je vais l'acheter. Sinon, non. Puis Éric Chamberlain, que d'ailleurs on va recevoir dans quelques instants, il dit il y a trop de jeux sur le marché, il y a plein de jeux qui ne marchent pas à cause de la surpopulation. Puis ça, c'est un bon point aussi.
Ouais.
Tu sais, si c'est sûr que déjà il y a beaucoup de jeux qui sortent, mais s'il y a un peu de n'importe quoi qui sort et un peu n'importe quoi qui ressort, à un moment donné, c'est comme peut-être que trop de choix, c'est comme pas assez. Là. Mm-hmm. Selon moi, c'est mon opinion à moi. Puis.
Ben, écoute, je te suis à 100% là-dedans. Mais avant de recevoir Eric, je veux juste... Parce que j'avais trois manchettes, là, puis fort heureusement, ils vont pas partir un débat des autres.
Ça nous fait jaser. On n'est pas ici pour s'écouter parler. On est ici pour parler.
Non, non.
Avant de passer.
La deuxième manchette.
Avant de passer à ta deuxième manchette, Bruno, on a eu du feedback sur le chat de Ustream aussi. Merci de nous suivre là.
Incroyable.
Ouais, puis il semble quasi stable ce soir en plus, c'est le fun.
Wow.
Il y a beaucoup de gens qui ont réagi à l'annonce de Shenmue HD. Là. Donc, je pense que c'est peut-être un titre qui promet en revente. Surtout si tu penses juste les cinématiques qui étaient dans ce jeu-là étaient incroyables. Fait que si on retravaillait là-dessus et qu'ils ne ressortent pas vraiment exactement les mêmes sur le jeu, ça peut peut-être être beau. Tu sais, il y a des gens qui achètent des jeux.
Ouais, mais je connais ces gars assez pour voir qu'ils vont polisher les. Mais je ne sais pas à quoi m'attendre, sérieux, mais j'ai comme peur que ça ressemble à un jeu de Dreamcast avec des textures HD. Puis ils disent « Hey! » Je me rappelle dans le temps qu'il avait sorti Half-Life 1. Valve avait sorti Half-Life 1, mais sur le Source Engine.
Okay.
Puis dans le fond, il y avait juste de l'eau qui était clean, sinon les modèles étaient aussi stupidement laid que...
C'était pas plus détaillé.
Non, puis... Mais par exemple, il y a du monde indie qui travaille sur Black Mesa qui has yet to be heard of.
Ouais.
C'est vraiment fantastique.
Oh, ce serait le fun, hein?
Ouais.
Hein?
Donc...
Attends, tu peux. Non, non. Bruno, là, t'es pressé, là. Tu vas aller prendre 14 Valium, puis tu vas nous revenir, si t'es capable.
Ben, justement, il faut que j'aille prendre des pilules, je reviens.
Il y avait aussi sur le chat Omega Ridley 89 qui est en fait Tilex 89 sur Twitter. C'est Tilex et non Tilex. Alors ça, je l'ai prononcé comme faux. Et, qui nous dit que en fait la dernière réédition que lui a acheté, c'était Metroid Prime Trilogy. Il dit, si je considère pas Star Fox 64 que j'ai pas joué à l'époque. Mais tu sais, c'est ça. Ils ont sorti, je pense, aussi Super Mario 64. Ils l'ont ressorti en 3D sur la 3DS, si je me trompe pas. C'est pas vraiment une réédition HD, mais c'est quand même une réédition d'un classique. Maxime Tremblay de l'Épée Légendaire qui lui dit, par exemple, Zelda sur la 3DS est meilleur que l'original, plus beau, plus fluide et plus de contenu. Et en dessous, il a rajouté que c'était plus facile. Donc, je pense que Maxime Tremblay est devenu un joueur ramolli qui aime les jeux faciles. Alors voilà. Fait que maintenant que Bruno est disparu, je vais remplir du temps en dansant sur place. Ce sera pas long. Jonathan? Allô? Alors, je me retrouve tout seul. C'est un podcast intime. Bonjour les amis. Je vais aller voir sur Twitter si on n'a pas eu d'autres réponses. Rien d'intéressant à part que Jean-François qui confirme que Laurent Chouinard est sexy. Alors voilà, on est tous à la même place. Mm-hmm. Oh, qui est là? J'entends des voix.
Ah, 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 ah. C'est Bruno qui est revenu de prendre ses Valium.
Ah ben bonjour. Colin, t'es quand même bien articulé pour quelqu'un qui a pris des Valium. Bon, fait que ça, c'est ça. alors, si t'es prêt, on est prêt à passer à ta deuxième manchettis?
Ben, ma deuxième manchettis, c'est... en fait, j'avais fait le suivi à travers des posts sur Geekbécois. De Mojang versus Bethesda pour le trademark du mot Scrolls.
Ouais.
Ben, bonne nouvelle pour ceux qui supportaient Mojang. Mojang qui fait Minecraft, si vous ne le savez pas. Ben, Mojang est venu à une entente avec Bethesda au niveau du trademark du mot Scroll. Mojang peut continuer à utiliser le mot scroll pour son jeu Scrolls, mais ils doivent donner le trademark à Bethesda et doivent promettre de ne jamais faire un compétiteur à The Elder Scrolls en utilisant le mot Scrolls. C'est l'affaire la plus ridicule que j'ai jamais entendue de ma vie. Là,
c'est niaiseux.
Pour un mot qu'ils ont peur. Tu sais, en même temps, tu sais, je veux dire, Mojang, c'est des indies. C'est ridicule. Tu sais, je veux dire, c'est comme si je te dirais, ben écoute, moi, je me pars une compagnie, ça s'appelle Kakan. Puis là, il y a finalement une compagnie, je sais pas, Kakan Industries ou quelqu'un qui fait un produit qui s'appelle Kakan qui me poursuit parce qu'il veut pas que ma compagnie s'appelle Kakan. Tu sais, c'est ridicule
un peu. Juste à dire en partant que ce serait peut-être pas le meilleur nom pour une compagnie. On jase, là. C'est...
Ouais, ben, il y a une compagnie à Montréal qui s'appelle Kekan.
Ouais, ouais, ouais.
Kekan.
OK.
Je te niaise pas, là. À chaque fois que je passe, c'est « Hey, Kekan ».
On les salue, d'ailleurs. Il y a sûrement qu'ils nous écoutent, toute la gang.
Ouais.
Parce que vous le voyez peut-être pas ce soir, mais en ce moment, en direct, on a 850 000 milliards d'auditeurs.
My God, c'est parce qu'il n'y a même pas ça sur la planète, tu sais.
Ouais, mais on s'arrête pas, on s'arrête pas à notre système solaire, là.
Ah non, c'est sûr. Je dis bonjour à tous les gens de la From the Citadel qui nous écoutent, dont Commander Shepard.
Hey, t'as-tu joué? Qu'est-ce qui se passe avec Mass Effect?
Je suis rendu à 20 heures de jeu. Il est ridiculement addictif, ce jeu-là, mais je vais en faire la critique. Mais il y a plein de points, mais c'est surtout à cause qu'il est sur PS3 qui fait que le jeu est moins appréciable.
Parce que les autres, t'as joué sur Xbox, sur PC?
PC, voyons. PC. Je fais partie de la race supérieure des utilisateurs de PC, voyons.
Ah,
t'sais, j'ai aussi, pas une tour qui est plus grande que moi en ce moment, assis sur ma chaise à côté de moi, tu sais. J'ai charré un peu, là, mais je l'appelle le monolithe. J'en ai fait mention souvent.
Rien de moins.
Mais bref. Mais juste pour venir à ma nouvelle de Mojang and Bethesda.
Oui, continue, mon grand.
Moi, ce que je trouve, c'est. Je trouve que c'est un coup de publicité que Bethesda a fait durant le temps qu'il faisait le dernier push pour mettre Skyrim en vente. Parce que, étrangement, cette poursuite-là est tombée à peu près dans le push final de publicité de Skyrim. Fait que, tu sais, il y a un vieux dicton dans le marketing qui dit « Parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. »
Parlez-en.
Fait que c'est ça qui est arrivé. Le monde a crié au scandale contre Bethesda, mais on a parlé de quoi? Elder Scrolls Skyrim. Mais en même temps, ça a fait de la publicité pour Mojang. Fait que c'est quand même bien. Ouais?
J'ai comme perdu mon idée en allant dire.
Wow! J'écoute.
Bonsoir.
Ça a fait
un... J'écoute, vas-y.
Ben, je m'en ai switché à ma dernière nouvelle, parce que j'ai beaucoup de nouvelles. Ça a beaucoup bougé là, à cause du Game Developer Conference. Mais une qui est carrément pas dans le Game Developers Conference, c'est Diablo 3. Une mauvaise nouvelle pour les gens qui attendaient à peut-être se péter mutuellement la gueule en jouant à Diablo 3. Mauvaise nouvelle, le PVP a été enlevé du jeu.
Vrai?
Temporairement.
Ah, ok, temporairement.
Temporairement, le PVP a été enlevé parce que... Et là, je... La raison est semi-legit, selon moi. C'est pour qu'on puisse livrer le jeu, on venait enlever le module de PVP altogether. Donc, ça va juste être un jeu de genre, je me promène avec mes amis puis on casse la gueule à des monstres. Puis ça, je trouve ça un peu poche.
Mais c'est pas quelque chose qu'ils vont patcher plus tard?
Ou? Oui, ça va être patché plus tard. Mais moi, j'ai un problème avec ça, c'est... Dans mon... Puis là, je vais sonner vieux. Là. Moi, dans mon temps... Et oui, j'ai fait exprès, là, mais moi, dans mon temps, quand Diablo 2 est sorti, là, le multiplayer, là, à part pour des patchs pour fixer un petit peu la balance puis les affaires dans le même, là, le jeu était complet. Il y avait le PVP, il y avait le multiplayer, il y avait Battle.net, il y avait tout. Il y avait tout le stock. Tu sais... Moi, je serais pas mal sûr que s'ils n'auraient pas passé tout leur temps à faire une espèce d'auction house où c'est que tu payes de la vraie argent pour acheter des items, puis qu'ils auraient mis le PVP à la place, là, ça aurait été un bon trade-off selon moi. Puis, c'est ça que je trouve pas. Ils disent que c'est pour finalement sortir le jeu qu'on a enlevé le mode PVP.
Ouais.
Je suis pas d'accord avec ça. Surtout que Blizzard, ça a tout le temps... Ça a tout le temps été, on va le sortir quand ça va être prêt. Puis là, ils nous disent, ben là, faut le sortir. Puis moi, j'ai comme une suspicion, puis regarde, vous allez sentir que j'ai beaucoup de haine pour Activision. Je sens que c'est le président d'Activision en haut qui fait, ben là, va falloir que tu sortes ton jeu parce que moi, je veux ma réserve de cash où c'est que je me baigne, tu sais, abondamment, ben, elle commence à dépérer parce que, ben, World of Warcraft, ton autre franchise, va pas très bien. Tu perds des joueurs. Puis, faudrait juste les rattraper ailleurs. Tu sais, genre d'affaire la même. Là. Fait que, moi, pour être honnête, le fait qu'il ait enlevé le PVP, là, j'ai envie de caler un gros bullshit. Ils étaient presque prêts. Ils se sont mis une date. Puis à la place de juste reporter la date, puis finir le module, puis finir le polish en arrière, ben. Bref, je sais pas ce que l'auditoire en pense, mais moi, là, je trouve que de plus en plus, les jeux, c'est le même. T'sais, on va sortir le jeu à moitié fait, puis après ça, on va mettre des patchs. Ou encore pire, on va faire payer le monde avec des DLC.
Moi, mais je pense, premièrement, je pense pas qu'ils vont faire payer ça en DLC. Si oui, c'est des douches, là, mais je penserais pas.
Non,
mais,
je pense pas.
Je veux dire, si tu regardes le PVP dans Diablo 2, à part des specs qui étaient faits juste pour ça, le PVP dans Diablo 2, là, c'était tu pèses sur le bouton pour être agressif envers un autre joueur, puis c'est tout. D'après moi, avec l'expérience qu'on a avec Blizzard, genre StarCraft, puis Warcraft 2 à 3, des choses comme ça, ils vont pas reculer dans le temps, ils vont pas enlever des choses qu'ils ont déjà maîtrisées. Fait que d'après moi, il va y avoir encore la possibilité de faire du PVP. Ce qu'ils ont coupé, d'après moi, c'est qu'ils ont décidé qu'ils faisaient peut-être une arène au complet avec des pièges, des trucs du genre, juste pour le PVP, que c'est probablement ça qu'ils vont couper, juste pour laisser le mode PVP plus ouvert dans le monde, dans le jeu, pour pouvoir le polir après. Ça, j'ai pas de problème avec ça.
Ben, j'ai pas de problème, puis en même temps, ça fait que t'as du contenu un peu à la World of Warcraft. Je suis correct avec ça, mais quand tu nous promets à la sortie, puis là, je vais revenir sur World of Warcraft, quand tu nous promets des features à la sortie qui sont pas là, ou que peut-être on verra jamais, ça me gosse. Parce que moi, je me rappelle dans Wrath of the Lich King, quand l'expansion de World of Warcraft est sortie, on m'avait promis des nouvelles danses. On est dans Cataclysm, la nouvelle expansion, 2 ans plus tard. Où c'est qu'ils sont, mes nouvelles danses? Je sais que c'est inutile, peut-être ça a été batté, mais c'était marqué sur la boîte quand j'ai acheté le jeu. C'était marqué sur la putain de boîte.
Ah, c'est pas à quel point c'est insignifiant ou non. S'ils sont pas capables de respecter leur engagement, c'est la seule chose qu'on s'attend d'eux en étant consommateur de jeux vidéo. C'est que si vous nous promettez quelque chose puis que vous avez pas une bonne raison pour vous en débarrasser, qu'est-ce qui se passe, man?
Ben, c'est surtout ça, parce qu'il avait dit oh « Oui, c'est là, regardez, ils ont même montré des vidéos avec les nouvelles danses. » C'est jamais arrivé. Ça a jamais été... D'après moi, c'est quand ils ont fait le push pour Cataclysm. C'est à peu près dans ce temps-là qu'on a comme senti que les microtransactions puis que Activision commençait à rentrer ses ongles dans le dos de Blizzard un petit peu pour le contrôle. C'est là qu'on a remarqué que les consommateurs, ça passait en deuxième plan. Puis les signes de pièce passaient en premier plan.
Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Pour vrai, je sais c'est quoi qui est arrivé. Je viens de faire une recherche super rapide sur Internet, ce qui est vraiment pas vrai. ça leur a coûté tellement cher d'avoir Chuck Norris pour une de leurs annonces qu'il n'y avait plus de budget pour rien faire d'autre.
Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, c'est plus ça mon problème. C'est que avant Blizzard traitait les joueurs pour des joueurs. Puis encore aujourd'hui, quand tu passes par le customer service de Blizzard, t'es traité comme un joueur. Mais le problème, c'est que la vision de la compagnie commence à changer de plus en plus, que t'es plus une personne, mais t'es un signe de pièce ambulant. Puis de plus en plus, Electronic Arts, c'est des champions de ça, là. Je veux dire, écoute, ils traitent leur clientèle comme du... comme du fumier. Voilà. Pour ne pas dire le mot M qui finit par hard.
J'ai tellement vu d'histoires de services à la clientèle, tu sais, des chats de services à la clientèle sur Internet là, qui ont mal viré.
Il y en a, c'est des fakes, mais il y en a que c'est totalement vrai.
Il y en a que je les crois à 100%. Là.
C'est ça. Puis je veux dire, de plus en plus, le joueur n'est plus un joueur, mais est un signe de pièce ambulant, je me répète. Puis ça, là, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est horrible, parce que ça fait que le joueur n'aura plus le même engagement envers la compagnie. Tu sais, moi, là, Blizzard, je les adorais, là. Je les adorais par-dessus tout. À cette heure, c'est comme, je suis juste un signe de pièce ambulant pour toi. Pourquoi je te donnerais de mon argent?
Mais c'est ça. Qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'on est l'ancienne génération de gamers. Nous, ce qu'on a connu, c'est quand on a commencé à jouer à des jeux vidéo, ben, premièrement, on était plus jeunes. Fait que c'est pas nous autres qui s'occupaient vraiment du volet consommation. C'était nos parents, mettons. Mais tu sais, on a connu vraiment l'ancien monde du gaming qui était comme, tiens, on vous garde, on sort tel jeu, tiens, vous voulez, vous avez besoin de n'importe quoi, on s'occupe de vous. On sort un titre à peu près aux 2 ans, fait qu'on va se concentrer à le faire comme il faut. Puis, c'est vraiment différent. Mais maintenant, c'était pas peut-être pas quelque chose qui promettait autant de bénéfices aux compagnies dans le temps que maintenant. Puis là, c'est vraiment mon opinion à moi, mais tu sais, maintenant, c'est ça, là. C'est comme, on le sait que dès qu'il y a un titre qui a pas nécessairement un titre qui promet puis qui va être bon, mais qui a été super bien commercialisé, publicisé, ben dès que ce titre-là a un impact potentiel comme ça, on le sait qu'on va faire de l'argent avec. Fait qu'une fois que les ventes sont faites, notre intérêt à bien vous traiter, vous, les clients, ben c'est pas mal plus bas. Puis tu sais, c'est ça qui est choquant là-dedans, c'est qu'on a connu vraiment les deux mondes de consommation du gaming. Tu sais,
ouais.
Aujourd'hui, c'est vraiment choquant. Mais pense à quelqu'un là, qu'aujourd'hui, il a peut-être 13-14 ans, puis il commence à peine à gamer, ou tu sais, ça fait peut-être 2-3 ans qu'il est dans ce monde-là. Mais pour lui, c'est complètement naturel. Il se dit, ah ben, tel jeu, ça me prend tel jeu. Puis là, ben, pour pouvoir jouer à tel jeu sur ma console, ça me prend tel accessoire. Parce que c'est pas juste le software, il y a le hardware aussi là, là-dedans.
Ou les fameuses online pass, que moi, je trouve ça absolument aberrant, ouais, que ça existe. Là. Ça, ben, c'est ça.
On n'a jamais connu ça avant, puis on en a discuté souvent aussi de ça.
Ben, c'est ça. Puis il y a une autre affaire. Il y a une autre affaire que moi, je trouve.
Péter un plomb là-dessus. Là.
Hein? Pardon? C'est quoi tu viens de dire?
Rien, je t'écoutais.
OK. moi, ce que je trouve plate, c'est que c'est les développeurs indépendants qui reviennent avec « on s'occupe de toi parce que t'es awesome ». Moi, là, il y a bien des histoires de... Genre, il y a quelqu'un qui a fait « ben écoute, ton jeu, il est vraiment awesome, mais j'ai été obligé de le pirater parce que j'avais pas les moyens ». Tu sais, c'est ce genre d'histoire, tu sais, c'est comme le gars, il se sentait mal de pirater le jeu, puis il sait que le gars, il se faisait pas tant d'argent que ça avec le jeu. Il a dit « écoute, ben, je vais être honnête avec toi, tu sais, je veux pas le pirater, tu sais, je voulais pas le pirater, mais en même temps, tu sais, il a expliqué sa situation. » Le gars, il a fait « écoute, mon grand, voici un code officiel, applique-le sur le jeu. Ça va marcher. » Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est le genre d'affaires qu'on a pu avec les grosses compagnies. Les grosses compagnies, à cette heure, c'est « on veut ton argent. On se fout de la belle histoire que tu vas nous raconter. »
On se fout du produit qu'on te livre aussi.
Absolument, là. Puis, je veux dire, à une certaine portée, Blizzard ont quand même livré un produit de qualité avec StarCraft. Moi, ce que je trouve poche, c'est qu'ils ont mis ça sur 3 volets pour maximiser les profits. Là. Je veux dire, sinon, il y aurait plutôt de combiner ça dans un même jeu. Là. On s'entend que les expansions, les grosses guillemets, les campaign expansions,
ouais,
qu'ils font, on s'entend que c'est it's for the money. Parce que sinon, je veux dire, les patchs, sinon, c'est des patchs de multiplayer. Mais là, c'est des patchs de multiplayer, t'es forcé de payer.
C'est ça. Pourquoi faire 60$ quand tu peux faire 180$?
C'est ça, puis je veux dire...
Puis, Laurent Chouinard de Geekbécois, un site que je vous conseille tous, il y a un bon argument là-dessus. Il dit « Si Duke Nukem Forever a shippé, tout peut shipper. » Puis je pense que ça résume très bien ça. Là.
Mais Duke Nukem Forever, là, si je puis défendre Gearbox, le studio qui l'a sorti, eux autres, ils ont fait ça for the fame. Ils n'ont pas fait ça pour le cash. Ils ont vraiment... Parce qu'ils se sont presque pas fait une scène dessus. Là. On s'entend, ça a vendu. Puis là, tout d'un coup, après que les reviews désastreuses ont sorti...
Ben, ils voulaient être la compagnie qui allait ressusciter le projet. Là,
en fait, ils voulaient être la compagnie qui le ship et qui ont dit « On a shippé le jeu, puis on n'est pas mort à travers ça. » Il nous a fait mal, mais on n'est pas mort.
Ben, ça fait mal à leur réputation pour les prochains titres, mais encore là...
Borderlands 2 a l'air awesome. Moi, c'est comme, ah, Gearbox, je te pardonne, voyons.
Oui, mais comme vous avez dit, il n'a pas été retouché, ce jeu-là. Là. En fait, ce qui aurait manqué, c'est peut-être un écran pour dire bonjour. Dans les achats de X Company, on a retrouvé le data de Duke Nukem Forever. Donc, voici Duke Nukem Forever dans l'état où il était il y a X années, parce qu'on n'y a pas retouché. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Fait que c'est pour ça que ça a fait mal.
Ben, par exemple, dans la vidéo d'introduction, moi, ce que je trouvais ridicule, c'est la quantité de studios qui passaient devant. Tu sais, t'avais 3D Realms, autre chose,
les logos,
autre
chose.
Puis après ça, t'avais finalement Gearbox, tu t'es dit, mon Dieu, ça a tellement tué de studios, ce projet-là, c'était ridicule. Je sais pas qu'est-ce que t'en dis, Joe, là, mais c'était...
Ben, ça a passé dans beaucoup de mains, mais en même temps, je veux dire, que, comme on a dit, c'est parce que ça a été en développement longtemps, puis je veux dire, je trouve que le jeu était bon, là. Il vaut le 20$ qu'il vaut là, en ce moment, sur Steam ou whatever. Il valait pas 60$, parce que c'était pas un jeu de 2011, fin 2011, avec des mécaniques amazing, puis un polissage incroyable. C'était un jeu de, disons quoi, 99, peut-être? Tu sais, on va y aller, là. Ça a commencé en développement peut-être dans ce coin-là, monté jusqu'à peut-être 2005 les dernières retouches. Ben, c'est un jeu de 2005. Pour 2005, 20$, ça peut avoir la peine. Tu sais.
Ah, ça vaut la peine, mais le problème, c'est que j'ai vu des titres indie faits en moins de temps avoir plus de gueule que ça. Tu sais. Ça fait mal un peu.
Non, ben, c'est sûr. Ben, c'est parce que c'est toujours une question d'engin. Là. Si on regarde justement Notch, qui est l'enfant chéri du indie, il marche avec du JavaScript, puis écoute, ça, c'est, il sait où il s'en va, puis ça n'a pas d'âge, cette plateforme-là, là, contrairement au Unreal Engine, puis tout, que ça a passé. Là.
Ah, Duke Nukem
sur le Unreal Engine a passé sur un paquet d'autres engins que je me rappelle même pas les noms, puis je pense qu'il est sorti, je me rappelle même pas sur quel engin il a sorti, fait que tu sais, quand tu prends un projet, puis il faut que tu le scrapes au complet pour refaire toutes les ressources pour chacun des engins, c'est sûr que le temps que tu fais ça, tu ne sors pas des nouvelles mécaniques ou des nouvelles textures. Ou, fait que c'est ça qui a coûté. C'est ça qui a coûté Duke Nukem Forever, d'après moi.
Mais c'est aussi le fait qu'ils se sont assis sur infini d'argent. Parce que 3D Realms pensait qu'il y avait infini d'argent parce que les anciens Duke Nukem ont tellement fait d'argent qu'ils pouvaient se permettre de scraper au moins deux fois le jeu avant de se dire « Là, on part pour de vrai. » Sauf ce qui était ridicule, c'est qu'il était rendu, je pense, à la cinquième itération du jeu. Puis le gars planifiait de rescraper le jeu parce qu'il disait « Vous savez quoi? C'est pas à mon goût encore. » Je veux dire, c'est ridicule. Ben,
alors, ben voilà. Les manchettes de Bruno qui font jaser et sur les réseaux sociaux aussi. Il y a Eric Chamberlain qui dit « Gearbox a acheté les droits de Duke Nukem 3D. » Moi, personnellement, je trouve que ça prend des couilles.
C'est quand Balls of Steel.
Ouais, c'est ça. Non, mais pareil. Tu sais,
Steve?
T'es complètement en train de mourir puis tout. Oui, allô? Bonsoir.
Ah. Allô?
OK, on allô? A une petite poche de lag.
Ouais.
Je les aime, j'aime ça, les poches de lag.
Alors, voilà. Et puis, il y a Aubert Guillemette qui dit sur Twitter qu'à propos de Gearbox, le réalisateur original voulait vendre le jeu le plus soigné possible, sauf à chaque 2-3 ans, il changeait d'engine. C'est un peu ce que Jonathan disait. Là. C'est passé dans les mains de tellement plein de monde que à un moment donné, ça a fait un pâté chinois. Moi, j'ai vu des images du jeu pour avoir joué aux premières versions. C'est pas un jeu qui me dérangerait vraiment d'essayer. C'est sûr que c'est peut-être pas un jeu que je vais jouer jusqu'à la fin puis que je vais m'engager dedans comme je me suis engagé dans plusieurs jeux. Mais je dis pas que je l'essayerai jamais là, quand il va être rendu à 5$ chez EB Games. Là, je vais peut-être m'y rendre. Ou chez Future Shop. Salut Future Shop, je t'aime. Fait que voilà. Alors, ben merci Bruno.
Ah, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Maintenant, je vais inviter quelqu'un à se joindre à nous pour la dernière partie du podcast parce que oui, nous autres, on a avancé l'heure énormément chez nous. Il est déjà rendu minuit et demi. Fait que...
Wow!
Ouais, je me retrouve à quelque part dans l'océan Atlantique. Voilà, je vais inviter Eric Chamberlain à se joindre à nous. Ça ne sera pas trop long. Pendant ce temps-là, j'aimerais ça que toi et Jonathan, vous vous ostiniez à propos des cure-dents. Merci.
Ben en fait, je vais pousser une autre nouvelle pendant que tu invites Eric Chamberlain. Mais pas de jeux vidéo, surprise.
C'est bon.
Le groupe Anonymous a lancé dernièrement son propre système d'opération qui s'appelle Anonymous OS. Et là,
les settings à Steve viennent de prendre le bord.
Non, c'était Eric Chamberlain.
Ouais, je vais lui suggérer fortement de mettre ses écouteurs et je le rappelle.
Ouais, c'est ça. Mais ce que je voulais dire par le système d'opération, c'est que c'est basé sur Ubuntu 11.10. Donc, les fans de Linux vont se reconnaître ici. Et le browser de base, quand on l'ouvre, ça s'appelle DuckDuckGo. Ce n'est pas Google, ce n'est pas Yahoo. C'est vraiment quelque chose qui est totalement open source et qui n'est pas rien. Donc, c'est quand même intéressant de voir que Anonymous, le fameux groupe de cyberterrorisme, décide de pousser sa propre alternative pour faire travailler les... voyons. Pour que les gens utilisent son alternative DOS pour pas qu'ils se fassent espionner, parce que on s'entend que c'est ça le but d'Anonymous, c'est de garder notre vie privée pour nous autres.
T'sais. C'est les combattants de la liberté, mais en même temps, est où la garantie, mettons, scellée que Anonymous remplira pas ça d'un paquet de backdoor, d'un paquet de failles facilement exploitables par la suite? Je dis ça de même, là, on jase.
Non, mais je suis totalement d'accord, parce que c'est tellement... Puis là, on va se lancer dans la grosse politique de conspiration.
Allons-y!
Moi, je trouve qu'Anonymous, ils essaient trop d'y aller comme blanc sur noir ou noir sur blanc sur tous les éléments, tandis qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas mal, tu sais, comme des teintes de gris, puis je trouve qu'eux autres, ils se promènent pas mal dans la zone grise, parce que autant ils ont le pouvoir d'attaquer les organismes, les organismes autres, comme, je donne un exemple, le FBI, la CIA, la police d'Ottawa.
Des petites affaires.
Des petites affaires. Autant que ils ont absolument des gros pouvoirs absolument mongols de rentrer dans ton ordinateur, voler tout ton stock, t'auras jamais su qu'ils sont rentrés. Puis après ça, envoyer ça à tout le monde, je veux dire, l'OLSEC on faisait ça, là. C'est comme, ils ramassaient des emails genre sur un site, puis... Désolé pour le toc, c'est mon téléphone qui a ramassé mon écouteur. Tu sais, ils ont ramassé des affaires, puis il y avait plein de passwords de plein de gens, puis probablement que vos passwords se sont ramassés sur le net à un moment donné. Ouais. Moi, je faisais attention de quand même vérifier que mon password ne se ramasse pas en ligne, puis s'il se ramassait en ligne, ben je le changeais immédiatement. Ça m'est arrivé une fois, puis j'ai quand même capoté de voir que mon username il était dans la liste. Fait que tu sais, j'ai pas trippé, puis je trouve que... En même temps,
c'est dur de faire confiance à du monde qui pourrait transformer un OS comme ça, un système d'exploitation, en un majestueux cheval de Troie de fou, là.
Ouais. Ou en même temps, est-ce que ça serait plutôt, tu sais, comme une passe du... Puis là, je tombe encore dans les conspirations. Ça serait pas plutôt une passe du FBI / la CIA pour justement... Que les gens qui s'identifient à Anonymous prennent cet OS-là, puis que dans le fond, c'est juste une grosse backdoor pour que le FBI les espionne à fond la caisse. T'sais, c'est... Ah, on pourrait partir longtemps là-dessus. Ça serait le fun de demander à l'auditoire est-ce que eux autres, si mettons, t'sais, du jour au lendemain, est-ce que eux autres essaieraient cet OS-là?
Ouais, c'est ça. Ouais. Seriez-vous prêts, en connaissant toutes les capacités que Anonymous possède, seriez-vous game en gros guillemets d'essayer ça, quitte à prendre le risque de mettre vos données en jeu, non seulement vos données, mais carrément vos systèmes qui peuvent être endommagés? Je dis pas qu'il le ferait, mais tu sais, quand tu sais qu'est-ce que Anonymous est capable de faire, moi je les respecte beaucoup parce que ils sont en ce moment, ils sont rangés du côté du citoyen. C'est ça, là. C'est vraiment leur mandat. On vous protège contre les grosses compagnies. On va essayer de les combattre avec vous dans des combats sociaux, pas de problème. Mais tu sais, n'importe quelle grande force comme ça qui est utilisé, qui est bien manipulé, il n'y a pas de problème, mais il suffit qu'il y ait juste quelqu'un qui s'en fâche dans ses lacets ou qui décide de virer fou, puis ça peut faire des dommages. Êtes-vous game? Répondez-moi donc là-dessus. Répondez à Bruno aussi, parce que c'est lui qui a fait...
Donnez-moi de l'amour. Donnez-moi de l'amour.
Bruno, il a besoin d'amour partout.
Bon. Si ma fiancée m'écoute... J'ai hâte que tu me donnes un câlin.
C'est ça. C'est le fun au bout.
Elle va me tuer pour ça, mais c'est pas grave.
C'est cute. On va y parler après. Mais, mais c'est ça. Bruno, en passant, je te laisse le chat de...
Steve?
Que moi, il n'arrête pas de se déconnecter sur mon bord et puis j'essaie de suivre les conversations dessus. Très, très, très mal. Alors, voilà. Fait que voilà, maintenant, on est joint par quelqu'un de... D'accord. On est joint par M. Éric Chamberlain. Et puis, un instant, je mets le jingle d'usage.
Le Geekbécois d'adoption de cette semaine.
Et oui, le Geek Québécois d'adoption cette semaine, c'est M. Éric Chamberlain, que vous connaissez probablement déjà sur Twitter avec le surnom Chambi. Alors, bonjour Éric.
Bonjour.
Bonjour, comment vous portez-vous, mon cher?
La voix un peu enrouée, ça a l'air.
Oui, c'est le fun. Avoir ça, on aurait fait un podcast visuel seulement, en langage des signes. Ça vous fait qu'à part ça, ça va bien, oui?
Oui, ça va très bien.
Oui, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je voulais qu'on soit une gang ce soir, alors on n'est pas loin d'être une gang, fait que je suis très, très, très content. Dis-moi, Éric, qu'est-ce qui se passe dans ta vie?
Dans ma vie, bien, moi, je fais les textes sur le site de cjap.com. Oui. J'ai fait aussi le podcast de cjap.com.
On salue d'ailleurs Luc Desormeaux, Simon Lefebvre et toi-même et toute son équipe que j'aime beaucoup. Allô?
Et dernièrement, ben, j'ai commencé à faire des critiques sur Geekbécois, un site que vous devez connaître.
Oui, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu
parler. C'est un espèce de site étrange.
Je pense que c'est le site de front de Anonymous.
Ouais, c'est ça. Il se cache derrière Geekbécois.
Ouais, non, c'est ça. T'sais, on est la base d'opération d'Anonymous. C'est un podcast subliminal. Là. Vous allez tous être sympathisants à la cause d'Anonymous très bientôt.
Ouais, quand il va sortir en téléchargement, écoutez-le à l'envers. On vous donne des codes secrets à utiliser. Bon, vous allez vous faire hypnotiser, dans le fond. Puis toi, tu es sur un projet quand même spécial. Tu as prévu te rendre au E3 cet été. Est-ce que je me trompe?
Oui, bien, en fait, c'est ça le but d'écrire de tous ces textes. C'est d'aller au E3. Et puis pour aller au E3, ben, ça prend un certain minimum de crédit. Il y a deux façons d'aller au E3, en fait. C'est où on est membre de l'industrie.
Ouais.
À ce moment-là, il faut acheter des passes. Les compagnies comme Sony, Microsoft, blabla, etc., achètent des passes pour leurs employés. C'est assez cher.
Puis comme on ne les connaît pas personnellement, ben, c'est pas l'option qu'on.
Ben, ouais, ben, c'est toujours possible d'essayer de trouver quelqu'un qui voudrait te donner une passe, même si tu veux la payer. Mais. C'est pas très facile. L'autre façon, ben, c'est d'avoir une passe gratos en passant pour quelqu'un des médias.
OK, c'est ça. Puis en ayant assez d'accréditation de presse média, ben là, à ce moment-là, toi, tu te payes une entrée au E3. Mon chanceux, je te déteste.
Ben ouais, ça c'est l'invitation va être gratos, mais les hôtels, l'avion, puis tout le reste, ça va être cher.
Oui, c'est ça. Hey, les hôtels, ça doit être fou là-bas.
Oui, surtout que les hôtels proches du centre de convention sont déjà commencé à être pas mal tout bookés. Fait que je vais probablement finir à South Central.
En Alberta.
Je vais prendre mon char et aller.
Oui, c'est ça.
Hey, mais Chambi, oui? Tu me fais penser que j'avais une semi-bonne nouvelle que j'avais pas le droit d'annoncer au dernier podcast qu'on a fait avec Mélanie Boutin-Chartier.
Pas le droit.
Hein?
T'avais pas le droit?
Non, ben en fait, on travaille encore sur les détails, mais je confirme à ceux qui nous écoutent en ce moment que Geekbécois va être à Penny Arcade Expo East cette année.
Ouais, le taxi, c'est vrai.
Moi et Koy, on va se taper un road trip jusqu'à Boston pour y aller. Pas pour voler ton Thunder. Je pense que le E3 puis PAX East, c'est comme. Le E3, c'est comme 40 fois plus gros que PAX East. Mais pour nous autres, c'est quand même. On est un petit peu fous de ça. Là. On est.
Il n'y a pas de compétition, anyway. Je trouve juste ça hot qu'on ait des représentants à un et à l'autre, là, surtout. Là,
ah, mais.
C'est bien. Hein, c'est rendu vraiment.
C'est le Woodstock des gamers. C'est ben Woodstock des geeks en général, parce qu'il n'y a pas juste des gamers là-bas. Il y a du monde qui joue des cartes de Magic. Il y a du monde qui sont là qui. Ce que j'ai peur cette année, c'est de voir les Bronies. Que ça commençait à percer l'an passé, puis que là, je suis pas mal sûr qu'ils vont être en pleine force. Si vous savez pas c'est quoi les Bronies, c'est des gens qui trippent sur My Little Pony, Friendship is Magic. Un ami commun de moi et Jonathan trippe là-dessus à fond.
Yeah! Okay.
Ouais. Je pense pas que j'avais besoin de savoir que ça existe.
maintenant tu le sais parce que tu risques d'en voir au E3 probablement.
Moi je vous juge pas. Je vous juge pas.
Yeah, écoute, moi j'ai écouté un épisode de My Little Pony Friendship is Magic. Je comprends toujours pas pourquoi le monde vire fou à cause de ça, mais c'est pas mal ça. Donc je vais vous laisser continuer. Haha.
Fait que c'était Bruno, mesdames, messieurs, je pense qu'on l'applaudit.
Oui.
Je pense que j'applaudis tout seul, c'est merveilleux. OK. Continue, Chambi.
Oui, c'est ça, on était rendu à quoi, là? Au E3? Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. L'idée, c'est d'aller au E3 puis faire des entrevues et puis tout mettre ça sur les internets.
Nice. Puis, y a-t-il des choses que tu attends déjà, que tu prévois?
Je pense que ça va être une grosse année, là, surtout juste pour la Wii U. Je pense qu'il y a plus de journalistes qui vont y aller juste à cause de ça.
Ouais. Y a-t-il des événements que tu dis, même s'il y a un line-up de 2 heures, c'est quelque chose que je peux pas manquer? Ou bien tu dis, ben écoute, je suis là pour l'événement complet, fait que je me rends un peu partout?
Ouais, ben je vais essayer d'aller voir le plus de choses possible, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des files interminables pour essayer les derniers Call of Duty puis toutes ces affaires-là. Tous les gros jeux, c'est presque impossible. Presque impossible de jouer. Là. Je pense que c'est un peu comme le PAX, même si le PAX...
Oh my God, oui.
Faut t'attendre 2 heures, puis t'as juste le droit de jouer 10 minutes. Cinématique.
Ça, écoute, le meilleur exemple que je peux te donner, Eric, c'est quand je suis allé à PAX East l'an passé en tant que simple moi. C'était pour le trip d'y aller. Écoute, il y avait une file d'attente de 7 heures pour The Old Republic, et je ne niaise pas, c'était vraiment une file d'attente de 7 heures.
Ça n'a pas de sens.
Dans le fond, tu perdais ta journée de convention à attendre.
Ouais, il y a du monde qui vont au PAX juste pour celui-là, par exemple. Ça, c'est du monde. Il y a beaucoup de monde là-dedans. C'est juste ça qu'ils veulent. Fait qu'ils vont là, puis ils campent 3 jours avant le PAX, puis ils recampent un autre 2 jours pour essayer le jeu. T'sais.
Ah, c'est ridicule. Puis je veux dire, moi, quand je me suis promené sur le floor, j'ai regardé le jeu. Il y a un démo qui sort dans 2 semaines. Il y a un démo qui sort bientôt. J'ai joué à Firefall, qui est toujours pas sorti. Que c'était vraiment intéressant, puis je me suis promené dans un jeu indie parce que je savais qu'il allait pas avoir de démo qui allait sortir. C'est comme, je sais pas pourquoi, mais les files d'attente me faisaient réévaluer, est-ce qu'il y a un démo qui sort, puis est-ce que ça va être plus plaisant de jouer aux démos chez moi plutôt que dans un boot avant tout le monde?
Ouais.
Tu sais, c'est...
Ben, tu sais, il y a des gens qui veulent vraiment avoir l'exclusivité. Regarde, je l'ai essayé, il est en essai là, blablabla. Mais en même temps, tu sais, tu te prévois une journée. Mettons, tu te prévois une journée là-bas, là. Tu scrapes ta journée à attendre pour une chose, puis après ça, tu t'en vas parce que tu n'as pas le temps de rien faire d'autre. C'est fou, là. C'est fou. Fait que je vous félicite d'avoir la patience de vous rendre dans des événements comme ça, surtout comme le E3. Avec l'attention que ça a des médias, parce que le PAX East, c'est pas que c'est pas reconnu, mais le E3, c'est vraiment c'est le Super Bowl des événements geek gaming.
C'est là que les compagnies promettent d'annoncer des trucs exclusifs. T'sais, au PAX, tu vois des choses qui ont déjà été annoncées, fait que c'est pour ça que ça attire un peu moins l'attention. Là.
Ben, ils ont quand même annoncé Duke Nukem Forever, le Rebirth à Penny Arcade Expo Prime. Je veux dire, OK, là, maintenant, on en riait, mais c'était quand même gros quand il avait dit « Non, le projet est vivant et en voici la preuve. » C'est moi, je trouve, c'est de plus en plus, il y a des gros événements comme ça, puis on parle d'événements, il y a Juste pour rire qui ont dit qu'ils allaient faire un mondial des jeux vidéo, mais tu sais, un peu comme le Gamescom, mais à Montréal.
Ouvert au public.
Ouvert au public, sauf moi, ça reste à voir, est-ce que ça va être un Arcadia 2?
Par contre,
ça va être un parking à enfants, puis que tu vas te promener, puis que... Disons que j'ai des... J'ai pas trop aimé l'expérience Arcadia que les parents, ils laissaient leur enfant là, eux autres, ils allaient prendre un café, puis eux autres, ils, tu sais, zéro contrôle. Là, c'était l'enfer.
Ça sera pas la même organisation, puis ça sera pas les mêmes circonstances. D'ailleurs, je voulais en glisser un mot là-dessus, justement. Là, tu tombes avec l'organisation de Gilbert Rozon. Là. C'est pas de la petite bière. D'après moi, s'ils décident d'organiser quelque chose, et premièrement, il doit y penser depuis longtemps. Puis deuxièmement, il va mettre le paquet justement pour que ça soit pas quelque chose qui reste underground, mais plutôt que ça soit quelque chose qui éclate. Bon, si ça éclate, ça devient commercial. Dans un sens, tant mieux, parce que ça sera pas juste justement underground. Ça va faire connaître plusieurs choses, dont les studios qui sont venus s'installer à Montréal récemment. Puis deuxièmement, si ça devient commercial, puis OK, là, on attire des jeunes, on attire ça, ben justement, c'est bon, ça va permettre d'éduquer les plus jeunes au monde du gaming, au monde en fait geek en général, parce qu'il va sûrement avoir d'autres choses que du jeu vidéo, même si ça risque d'être concentré là-dessus.
Mm-hmm.
Puis une foule qui est bien éduquée, ben ça peut devenir à l'avenir des travailleurs de ces métiers-là qui sont bien éduqués, qui sont dedans pour les bonnes valeurs. Fait que moi, en tout cas, je trouve que c'est... Personnellement, je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative. Il était temps, ouais. Parce que tu as parlé d'Arcadia. Bon, moi, j'y étais parce qu'il n'y avait que ça d'intéressant. Et puis, honnêtement, je m'ennuyais d'Arcadia parce que j'avais quand même aimé ça. C'est tout.
Mais ça a quand même, malheureusement, au niveau des relations publiques, hein, Arcadia a comme fait faillite parce qu'il y a eu un scandale lié à ça, ben ça a fait... Ben, les compagnies de jeux vidéo ne voulaient plus rien faire à Montréal parce qu'ils nous prenaient pour des crosseurs en général.
C'est pour ça que ça prenait un joueur majeur peut-être aussi pour ramener les compagnies.
Mais, oui, c'est ça. Ça prend quelqu'un qui a de l'argent.
Ben, ouais. De l'argent puis une bonne renommée. Écoute, Gilbert Rozon, il est rendu en France, il est juge dans des émissions de télévision. Il est reconnu. C'est pas juste c'est la face avec le gros nez. Désolé, Gilbert, je sais que tu nous écoutes. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment de l'influence. Avec le festival Juste pour rire que lui a créé.
Et on a un beau lag spike.
Là, c'est une version anglophone. On a un beau lag? Ben on le salue, saluer le lag qui vient faire son tour une fois de temps en temps, c'est mignon. C'est gentil. Hello? De sa part. Fait que, oui, bonjour.
Ça semble, pour continuer ces festivals de jeux vidéo, ça semble vraiment compliqué d'en faire un au Canada. Moi, je comprends pas qu'avec comme les 4,5 millions de personnes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo à Montréal, il n'y a pas rien, tu sais. C'est, puis même à Toronto, je veux dire, il n'y a presque rien. Il y a des espèces de succursales d'événements qui font aux États-Unis, qui viennent à Toronto nous visiter une fois par année. Mais il n'y a rien au Canada. Puis honnêtement, en Amérique du Nord, c'est le jeu vidéo au Canada, ça doit être comme 50% des jeux qui sont faits ici, hein, avec Vancouver, Toronto. Hein.
C'est vrai, t'amènes un bon point.
Ça prend quelqu'un qui a du cash, c'est juste ça. Ça va prendre quelqu'un comme Juste pour rire qui va être prêt à absorber des pertes pendant les 5 premières années, puis qui va attirer les studios, créer un momentum.
C'est sûr que lui, s'il décide de créer quelque chose, il ne créera pas à moitié, tu comprends? Lui, son but, probablement que c'est pour faire de l'argent en partant. Hein? Il ferait pas ça de bonne foi comme ça. Mais justement, s'il veut faire de l'argent, il va s'arranger pour inviter les bonnes personnes pour que ça soit organisé vraiment de la manière à laquelle les gamers, ceux qui s'y rendront, s'attendent, tu sais. Moi, s'il y a quelque chose qui est organisé comme ça par quelqu'un avec autant d'envergure que Gilbert Rozon, ben, je me dis, c'est mieux de ne pas être botché. Parce que ça me surprendrait premièrement que ça soit botché, que ça soit fait tout croche, puis qu'après ça, justement, comme tu dis, il risque de pas faire énormément d'argent avec les premières éditions. Fait qu'il va lancer autant de cash, autant de ressources qu'il peut là-dedans pour que ça soit le mieux possible dès le départ. T'sais. Il ne botchera pas quelque chose en partant puis faire comme, bon, ben on s'est essayé puis ça ne marchera pas. J'ai vraiment l'impression que s'il part quelque chose, il va croire en son projet. Là. Fait que, puis il va mettre aussi les bonnes personnes dans l'organisation. C'est pas Gilbert Rozon qui est gamer expert puis qui va tout organiser.
Non, mais il va avoir des contacts. Lui, il a des contacts. Il va aller chercher les gens d'importance. Ben, ça me fait penser à quelque chose, tu sais. On a une grosse place en jeux vidéo, mais on a aussi une grosse place en technologie. Tu sais, je veux dire, veux pas, Montréal, c'est quand même un pôle de technologie. Là. Ça serait le fun d'avoir quelque chose. Je parle pas du CES, parce que le CES, c'est THE événement, mais ça serait le fun d'avoir quelque chose pour les gizmos, tu sais, pour les cellulaires, parce que je veux dire, on a quand même des grosses compagnies. Oui, le Canada, on est un peu en retard sur les cellulaires, mais ça serait le fun. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que t'en dis, toi, Eric, mais... Quelque chose de plus technologique, tu sais, qu'on ait genre un showcase de tablettes, que tu sais, on ait des gros événements de lancement pour tout ce qui est techno, là, tu sais, parce que jeux vidéo, tu sais, on a des événements de lancement, tu sais, il y a eu le gros party de Deus Ex, ouais. Mais tu sais, imagine, là, on lance, je te donne un exemple, on lance le Galaxy Nexus 2. Ça n'existe pas, là. Virez pas fou, là. Mais on lance le Galaxy Nexus 2. Ben, on se fait un gros party, venez l'essayer, on en fait tirer sur place. Puis tu sais, je veux dire, Samsung a une grosse présence à Montréal parce que je veux dire, on consomme tellement de cellulaires, nous autres, au Québec, c'est ridicule. Là. Je veux dire, écoute, Vidéotron, là, il se fait des affaires en or, là. Puis pourtant, il n'y a rien.
Ben, sans se limiter aux cellulaires, puis aux tablettes, puis aux bébelles comme ça, moi je suis un fan fan de gadgets. Il n'y a pas un site que je suis pas, puis je suis toujours en train d'essayer de voir c'est quoi les nouvelles innovations, mais dans tout, là, autant pour les gadgets utiles à la maison, à simplifier la vie des gens, à aider les personnes avec des difficultés, soit des personnes handicapées, ou tout ce qui sort, toute nouvelle technologie qui sort, je m'y intéresse. Je suis québécois, je m'intéresse à ça. Et comme tu le dis, il y a le CES à Las Vegas qui est comme « Bonjour, on fait une grosse exposition, on est reconnu à travers le monde. Pourquoi pas faire ça, pas avoir un volet canadien, un volet québécois à ça qui pourrait attirer mais mon gars du monde? Il n'y a pas juste moi certains qui trippent là-dessus. Là. »
C'est non, sûr mais que écoute, il y a des blogs techno, là, je veux dire, oui, il y a nous autres Geekbécois, il y a le Technophile, il y a ZTélé, il y a... Écoute, là, je veux dire, la demande est là. On demande juste qu'il y ait quelqu'un qui sait, tu sais, je sais pas, Gilbert Rozon, si tu nous écoutes, là, man, ton deuxième projet, fais-nous une affaire qui est consu... qui est vraiment accessible pour les consumers, pour que nous autres, on aille voir le futur. Que j'aille voir c'est quoi, mettons, le futur frigidaire ou, je sais pas, la future animatrice de Geekbécois.
C'est moi, bref. Ça.
C'est ouais, moi, toi, avec des parties cybernétiques.
Absolument. Mais tu sais, toi, mettons, là, Eric, tu t'intéresses à ça, là, à couvrir un événement de gaming, fait qu'à la base, t'es gamer. Mais si on avait un gros événement comme ça d'électronique à couvrir à Montréal, tu le ferais-tu?
Oh oui, c'est sûr. Mais vois-tu, moi, dans ma vie de tous les jours, parce qu'il faut que je travaille un peu.
N'est-ce pas?
Oui, je travaille là-dedans, la techno.
Okay.
En fait, le domaine commercial, là, tout ce qui est installation, télévision, projecteur vidéo, téléconférence. Puis même nous, pour nous, là, qui est quand on, c'est difficile d'avoir les compagnies de venir au Canada nous faire des présentations, puis c'est une question de marché. Puis même si ma compagnie mère vend pour des millions de dollars par année juste au Canada en bébelle.
C'est ça, on est quand même consommateur ici. Là.
D'avoir juste eux autres venir nous faire du training pour un nouveau produit, c'est vraiment compliqué. Il faut comme les organiser nous-mêmes. Puis il faut presque payer la compagnie pour qu'ils viennent nous faire une formation privée, tu sais, pour qu'on puisse après vendre leur machine, tu sais, c'est vraiment. Puis en même temps, on leur dit que c'est un cercle vicieux, tu sais. Si on dit, venez nous montrer vos produits, ça va nous aider à en vendre, mais si vous. Puis les autres, ils disent, mais vendez de nos produits pour qu'on vienne vous voir, tu sais.
Ah, mais c'est ça que je comprends pas. On est autant consommateur que n'importe qui, en tout cas n'importe qui en Amérique du Nord, puis c'est pas n'importe qui dans le monde. Là, je veux dire, les technologies, c'est des compagnies qui veulent se mondialiser, vendre un peu partout. Mais Crime, si on vous offre, on serait prêt à vous offrir une fenêtre incroyable pour showcaser vos produits puis tout. Puis si tu me dis qu'il y a des compagnies majeures, je sais pas pour quelle compagnie tu travailles, puis on te le demandera pas évidemment, mais tu sais, c'est des compagnies, des joueurs majeurs de l'industrie technologique qui sont pas prêts à faire ça, ben à quel point vous tenez à faire des ventes là, tu sais, à quelque part.
En plus, parce que nous là, faut pas se le cacher, là, on est un vrai petit marché là. Même si en population on est l'équivalent de la Californie, on n'a pas tout le Silicon Valley puis tout. Toutes ces compagnies-là, toutes les maisons mères qui vont acheter autant de produits. Fait que des grosses, grosses entreprises au Canada, il y en a beaucoup moins qu'en Californie. Fait qu'honnêtement, on vend moins. Puis souvent, les représentants, on a beaucoup de compagnies qui n'ont même pas de représentants au Canada. Fait que comme nous ici dans l'Ouest, ça va être un représentant qui va être le représentant pour le Nord-Ouest des États-Unis, qui sa route va comprendre l'Alberta puis la Colombie-Britannique.
Ah, c'est ça.
Fait que lui... Il répond au téléphone une fois par mois, tu sais, quand on appelle. Parce que pour lui, tu sais, nous, on va acheter par un an ce qu'une compagnie aux États va faire en une semaine, tu sais. Fait que pour lui, ouais, on est plus des problèmes que d'autres choses, tu sais.
Mais c'est en même temps, tu sais, je veux dire, c'est poche qu'eux autres se voient juste dans les États-Unis qui disent, ben, gars, si on reste aux States, on va se faire infini de cash. Puis je veux dire, ils n'ont pas tort parce que, tu sais, je veux dire, la population des États-Unis est ridiculement plus grande que la nôtre. Mais. Je trouve que quand même, on est un des marchés les plus consommateurs de technologie, d'Internet au monde. Là. Puis, tu sais, je niaise pas, là. Tu sais, c'est comme la Corée, là. C'est comme. Non, c'est nous autres qui mangent plus de bandwidth que eux autres. Puis eux autres, ils ont un service Internet absolument à se rouler à terre. C'est comme, oh my God, what the hell? Ouais. Puis ils ont plus de population là, mais c'est nous autres qui mangent plus de bandwidth en arrière. Puis moi, ce que je trouve ridicule, c'est que, écoute, le moindrement que la compagnie commence à dire... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Non, mon Dieu, c'est parce qu'on a eu une grosse poche de lag, là, je pense. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. Je pense que, je sais pas si c'est ma connexion Internet à moi, mais il y a eu un très gros espace après la fin de ta phrase. Puis je pense que moi et Eric, on a embarqué en même temps dans la conversation.
Ah, OK. Non, ça se peut. Mais ce que je voulais simplement dire à travers ça, c'est que si les compagnies, le moindrement, qui voudraient faire un petit peu d'incision puis de pousser les produits au Canada comme un peu Samsung fait... Mon Dieu, ils vont avoir infini d'argent. Là. C'est ridicule parce que je prends Samsung comme exemple parce que je trouve qu'eux autres ont une excellente présence au Canada. Ils ont un head office à Toronto. Puis eux autres, ils n'ont pas peur de venir approcher genre les blogueurs, les enfants en main pour donner les cossins. Pourquoi pas, tu sais? Je vais dire, pourquoi pas? Là, je donne un exemple. Motorola pourrait faire la même affaire. À la place de passer par une agence de PR qui installe un bureau puis que ce soit Motorola qui dise « Hey, les amis! » Essayez mes cossins, parlez-en, puis ou au pire, tu sais, des entraînements pour des appareils technologiques comme tu fais, Eric. Tu sais, je veux dire, c'est le genre d'affaires que je trouve qui serait important au Canada qu'on ait. Parce que là, en ce moment, on a l'air du tiers-monde de l'informatique avancée.
Oh my God, juste ça?
Écoute, ben, c'est ridicule, on a tout un an après tout le monde. Mm. En tout cas, je vais vous laisser continuer.
C'est bon, merci. Allô?
Oui, bien comme, tu sais, par exemple, mettons pour les compagnies, là, si quelqu'un va être un distributeur de produits Sony, juste pour prendre un exemple, je pense qu'il faut que tu signes un contrat avec Sony qui t'oblige à acheter pour un minimum de 250 000 $ d'équipement off the bat, là, en partant, de stock que tu n'as même pas encore vendu. Là.
Ah, mais c'est ça.
Fait que ça, c'est quand même pas mal. Là. Si, mettons, tu vends des... Comme nous, si tu, mettons, tu vends des grosses Switch puis des grosses matrices vidéo, ben 250 000 $ t'en achètes 2-3 puis c'est réglé. Mais si tu vends des écouteurs à 10 $ là, ça en fait en maudit d'histoire.
C'est sûr.
Fait que l'investissement est énorme pour venir au Canada. C'est énorme. Puis c'est vraiment... En plus, avec les douanes puis tout ça, c'est la game n'est pas très, très fair. Puis là, en plus, avec le taux de change, on se fait vraiment avoir présentement, là. Parce qu'on devrait vraiment payer toute notre tech vraiment moins cher. Parce que moi, je les vois les costs, là. Je vois les costs passer dans mes listes de prix, là. Puis on se fait avoir bien raide.
Ah, c'est ça qui est dommage, mais tu sais, on verra. Peut-être que c'est peut-être quelque chose, une expansion qui va se faire graduellement. À force de juste vendre aux mêmes consommateurs, à un moment donné, ils n'auront plus rien à vendre parce que tout le monde va tout avoir. Fait que ils n'auront peut-être pas le choix de se tourner vers nous autres. Puis on les attendra avec un bat de baseball rouillé.
Mais c'est comme tout le monde était fâché un peu quand Best Buy a acheté Future Shop. Parce qu'on était encore une compagnie américaine, mais c'est la meilleure chose qui a pu nous arriver, honnêtement. Parce que du jour au lendemain, l'inventaire, on faisait partie de l'inventaire américain.
T'sais. C'est ça, ça nous a ouvert une porte.
Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que depuis ce temps-là, en tout cas, surtout depuis que les Best Buy sont arrivés, l'inventaire de ce qu'il y a dans les Best Buy est plus puis les Future Shop est beaucoup plus diversifié parce qu'avant, Future Shop ne pouvait pas se permettre de garder 25 paires d'écouteurs différentes sur leur tablette parce que tu n'as pas un bon prix. Il faut que tu en achètes beaucoup. Fait qu'ils gardaient comme 5 sortes pour être sûr d'en vendre le plus possible. Mais la journée que Best Buy ouvre à acheter, ben si demain matin, ils n'en vendent pas de leurs écouteurs au Future Shop de Montréal, ben ils mettent sur un camion puis ils envoient à New York puis ils savent qu'ils vont les vendre là, t'sais.
Ah, ben c'est ça.
On va faire l'inventaire ailleurs. Fait que c'est plate, là. Moi aussi, j'aimerais ça que les compagnies restent canadiennes et que ce soit de chez nous, mais pour certaines choses, c'est comme pas le choix. Financièrement, en tout cas, ils n'ont pas le choix. Là,
on verra bien. Hein? Je pense que je vais arrêter ça là avec on verra bien.
Tu sonnes quasiment comme le CAQ.
Comme le CAQ?
On verra. Hey, on parle de politique, my God.
Non, mais c'est ça. Ça, c'est un signe qu'il faut qu'on arrête de parler, peut-être.
Ouais.
Hein? Avant de me caler, là. On a déjà une heure et demie de show dernière nous. C'est beau.
Dernière nous, ouais.
Oui. Le PC.
Notre animatrice est fatiguée. Je pense que son petit Romain le mange.
Oui, ben c'est parce que je m'ennuie. Je vais aller le voir. Fait que je pense qu'on va clore le spectacle ici, si tout le monde est d'accord. J'ai voulu faire peut-être une dernière tournée des réseaux sociaux, mais pour ce qui est de Twitter, le monde est tombé endormi environ une demi-heure. Fait que ça se résume à un paquet de Z. Je sais pas si tu as quelque chose qui se passe d'intéressant sur le chat avant qu'on quitte, Bruno.
Ben, pas mal. Tout le monde est tranquille. Ça fait. Ça fait depuis. Ben, il y a Tilex, qu'il faut pas que je dise Tilex.
C'est Tilex 89, oui.
Tilex 89. Ben, en fait, regarde, le chat se réveille étrangement quand on les mentionne. C'est alors bonjour, chat. non, mais c'est pas mal tranquille. Fait que je vais pas mal vous dire que ça Bonne serait nuit. Peut-être une idée de fermer l'émission, mais c'est toi l'animatrice.
Je suis l'animatrice et je décide qu'on prolonge ça jusqu'à demain 20h. Fait que je m'en
fasse. Mon boss va pas aimer ça, mais c'est pas grave.
OK, bye.
C'est ça. Hey, t'es là, toi? Jonathan, le ever so quiet, Jonathan.
Qui est-tu? Tu vas pas essayer de faire un 24 heures?
Non, je garde ça pour. Oh mon Dieu, ma gueule. Je m'en allais rien dire. Non, mais ce serait fou, un podcast de 24 heures. Hein? Quelle mauvaise idée. Mais non,
c'est ça. Alors, si c'est pour une levée de fonds, ça serait intéressant, non?
Je l'ai déjà proposé à plusieurs animateurs de podcasts. Ça avait l'air d'en intéresser une infime partie. Alors, peut-être, on verra.
C'est parce que rester debout devant un ordinateur pendant 24 heures, c'est parce que tu finis par sentir le swing et tout.
Non, évidemment, je ferais ça à relais. Là. Bonjour.
Faudrait que ce soit vidéo. Faudrait vraiment que ce soit sur vidéo. Pour voir la dégringolade qu'il apprend.
Mais tu me fais penser, il y a l'autre Ready Run qui fait Desert Bus for Hope. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. On peut te lire là-dessus. Allô?
Oui, je t'écoute.
OK, non, ça va. Donc, Desert Bus for Hope, c'est simple. C'est pendant 48 heures, il joue au jeu le plus plate qui a jamais été créé, soit conduire le Desert Bus. Pendant 8 vraies heures jusqu'à une destination sur une route droite et le boss louche un petit peu à gauche.
Aïe, c'est poche.
Et il joue ça pendant 48 heures à relais. Et pendant ce temps-là, sur la caméra, ben, il exécute des choses. Pour les gens payent pour que genre « Hey, tu peux-tu chanter genre la chanson de DuckTales? » Puis ils font oh, « OK, bon ben, ah, pour ouais. 20$. » Puis ils font tirer des prix absolument mongols. Puis des fois, les enchères montent à... Je pense que le plus cher que j'ai vu il y a 2 ans, c'était 5 000$ pour un toutou.
Ben, j'ai déjà pensé à organiser quelque chose de même pour une levée de fonds. On verra, peut-être que ça va se faire. Mais juste une petite parenthèse, puis là, c'est vrai que je clôt là-dessus. Parlant de levée de fonds, je veux juste souligner l'effort de Luc Desormeaux, de CJUAP, donc que tu connais très bien maintenant, Eric. Non, c'est ça, c'est quelqu'un. C'est mon voisin d'en arrière en plus. Qui relance cette année une levée de fonds pour Leucan, comme il avait fait l'année passée. Cette année, par contre, il n'y aura pas de prix à gagner, à part l'honneur d'avoir donné. C'est une levée de fonds sous la forme du défi de tête rasée. Et puis, il va faire ça dans notre petite région à nous, là, de Saint-Zotique, donc la région de moi et Luc. De Luc et moi, c'est-à-dire. Et bien, évidemment, tout le monde est invité à peut-être à faire un don ou juste peut-être à nous encourager. Je dis nous parce que je participe à l'événement, je me fais raser la tête et il essaie d'avoir un peu de participants pour le faire avec lui. C'est organisé pour le 3 juin. Je l'ai déjà mentionné peut-être dans un autre podcast ou peut-être sur le sien. En fait, oui, je pense que c'était sur le sien. On avait mentionné la date du 16 juin qui n'a plus vraiment rapport. Donc, c'est le 3 juin. Et puis, moi, je vais juste vous encourager peut-être à aller faire un tour au cjuap.com qui est le site Internet de qui est le blog de Luc et qui est aussi le site Internet qui regroupe les épisodes de son podcast qui c'est juste un autre podcast. Et puis, allez faire un tour là-dessus. Hein, pardon? Et puis les textes d'Éric, bien sûr. Allez faire un tour là-dessus pour juste vérifier les détails de cette levée de fonds-là. Moi, je vous encourage vraiment à l'encourager. C'est beau. Parce que l'année passée, il a réussi à faire une super belle levée de fonds à laquelle il a fait tirer des prix puis tout le kit. Fait que je pense que lui, il fait ça vraiment de bon cœur pour lui-même, pour une bonne cause. Puis je voulais profiter de la petite plateforme que j'ai en ce moment pour le souligner. Alors voilà, Luc, tu es fort, tu es bon, tu es beau. Et puis, tu es mon voisin. Voilà. Fait que c'est tout. C'était-tu beau?
J'ai une arme à l'œil.
Bon, moi aussi, j'ai une arme à l'œil. Alors, c'est ça. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc, je veux remercier tout d'abord notre Geekbécois invité adopté, c'est-à-dire de cette semaine, qui était Éric Chamberlain, alias Chambi. Où est-ce que, justement, on peut te lire ou te contacter, mon cher?
Ben, Twitter, @Chambi, Chambee. Sinon, tous les lundis, il y a une chronique sur CJAP. Tous les jeudis aussi, il y a une chronique chèque de paye sur CJAP où je dis aux gens comment gaspiller leur argent sur des jeux vidéo.
Ah, c'est bon.
En suggérant des choses au lieu d'acheter l'épicerie. Et tous les jours complètement aléatoires, il y a une chronique qui va apparaître sur Geekbécois.
Excellent. Bien, on est content de t'avoir parmi nous et puis on va être aussi content que tu nous ramènes des nouvelles du E3. Fait que je te souhaite, si je te reparle pas de vive voix d'ici ce temps-là, mais j'espère que oui, je te souhaite un super beau voyage. Alors voilà, merci à toi. Merci à Jonathan aussi d'avoir été un petit peu avec nous.
Il n'y a pas de problème. Non, je suis toujours là, je suis attentif, j'écoute et on attend.
T'es notre meilleur Joe. Auditeur, je pense.
Je sais.
Joe, c'est un ninja.
Ah, il n'y a pas de doute là-dessus.
Je sais, il me fait faire un saut chaque fois qu'il se met à parler, Colin. Puis merci à Bruno pour ses éclats de rire et ses manchettes qui ont rempli le show et qu'on remercie beaucoup.
Je vais essayer de ne pas pogner les manchettes qui font jaser. Prochaine fois, je vais faire « Et il est mort ». Passons à la prochaine manchette.
Ben, tu sais, ça revient à peu près au concept que je voulais faire. T'sais, on a sorti des sujets, puis on a débattu là-dessus, puis ça a participé aussi sur les réseaux sociaux. Fait que c'est pas parce que ça s'appelle une manchette qu'on n'est pas capable de développer dessus. Tant mieux si c'est ça que ça a donné. On a réussi à faire une bonne émission là-dessus.
Ouais.
Fait que t'es bon, t'es beau, puis je peux confirmer à tout le monde que tu sens bon. Fait que voilà. Et puis moi, ben, je suis Steve Desgarry. Je suis... maintenant revenu à mon poste d'animatrice et ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Fait que je vous convie le 28 mars pour notre prochain épisode. Oui, c'est dans 2 semaines. Et par la suite, on va tomber à des épisodes aux 4 semaines, c'est-à-dire au mois de Geekbécois Extra. Donc, le prochain épisode, le 28 mars à 20h, qui est un mercredi. Et là-dessus, je tiens à vous remercier tous d'avoir été là. Merci d'avoir communiqué avec nous. C'était super le fun, puis ça m'a fait du bien de me remettre à parler dans un micro pendant qu'il se passe plein de choses bizarres autour de moi. Fait que voilà, merci beaucoup tout le monde, puis on se revoit la semaine, pas prochaine, l'autre après. Ça va bien.
Ciao!
Je parle par-dessus le thème, la la la.
T'es chien, man.
Tu l'as bien fait la dernière fois, c'est ma vengeance.
Chick-a-dick, je me déshabille pendant le thème. Déshabille pendant le thème.
Je portais pas de pantalon.
Pata 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 pata